When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Et bonsoir, c'est Ken Bogard. J'ai une voix d'homme viril, malgré le fait que je sois poilu comme un kiki. Non, évidemment, ce n'est pas Ken Bogard. Ken Bogard ne peut pas participer à cette émission car Johan est covidé.
Je crois que c'est actuellement...
Deuxième fois ?
Non, c'est la première fois.
La première fois, d'accord.
Il n'est pas en réanimation.
Il n'est pas en réanimation, et ça c'est bien. Voilà. On lui souhaite un prompt rétablissement et bien sûr des chronos détruits comme il a l'habitude de faire avec sa bicyclette. Je suis néanmoins en présence du reste de l'équipe, c'est-à-dire la meilleure partie. Je commence par présenter toi, Chloé, qui est à ma droite.
Oui, bonjour. Je croyais que tu disais la meilleure partie, Chloé. Je trouvais ça sympa, mais pas très sympa pour Victor.
Bah si, mais oui, mais d'accord, mais en fait, les deux parties...
Mais je suis la meilleure partie de l'émission.
Oh, arrêtez, je vais rougir.
Toute partie égale par ailleurs, comment ça va Chloé ?
Ça va très bien, j'ai un peu trop mangé, et sache que Cyclefix répare chez toi.
C'est vrai ?
Oui.
Très bien, donc je vais faire appel à ses services. Cette émission n'est absolument pas sponsorisée comme à son habitude, néanmoins il paraît que les gens de chez Cyclefix sont pratiques et fixent vraiment les vélos.
Oui, c'est des copains du raid du mercredi.
Et voilà, le raid du mercredi, donc c'est évidemment quand vous voyez 50 imbéciles rouler à tombeau ouvert sur des routes interdites aux vélos.
Couteau entre les dents.
Couteau entre les dents, vélo en carbone entre les cuisses.
Tout à fait.
Comment vas-tu Victor, qui est venu en cosplay cycliste ?
Écoute, j'ai repris le flambeau de Johan qui est pas là, donc du coup je suis venu en cuissard avec ma fusée.
Ouais, voilà. Le vélo est plus léger que ma paire de pompes, il est habillé tout en lycra. Vous voyez, dessine-moi comme t'es française dans le Titanic.
Ah ouais, attends, voilà. Vas-y.
Hop là. Voilà. Moi j'aurais plutôt dit un petit cours de gym des années 80. Quoi.
Ouais, gym suédoise, ouais. Si.
Il a commencé à porter la moustache au second degré.
Ah ouais, c'est vrai.
C'est devenu son identité. Voilà.
Soon to be YMCA.
Et voilà. Et bien sûr, l'émission est réalisée par l'inénarrable Quentin qui n'est pas venu avec sa chemise et sa cravate de pilote de ligne avec ses galons. Ah, il est venu avec un col Mao. Donc il est en civil, j'imagine.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Col Mao.
Alors, le programme de ce commute un peu spécial, puisque c'est moi qui le host et que je ne sais pas du tout hoster aucune émission, on va parler technologie, on va parler feu rouge, on va parler flux, on va parler...
Moi, je vais tricoter. Alors, full disclaimer, ouais. on a cette émission... n'est pas préparé, du moins par moi en tout cas. Chloé, elle a mieux taffé que moi.
Non, ouais. Non, moi j'ai des choses qui m'intéressent, mais j'ai rien sourcé comme d'habitude et on va
voilà.
Mettre des
très
chiffres
bien. Donc
au
en fait, moi
pif,
je vais
quoi.
Remplacer Ken avec. Je vais faire full. Je vais être complètement en roue libre.
Ok. Voilà.
Tu vas parler de tes chats ?
Ouais, je sais pas de chat.
Mais c'était Ken.
Mais je ouais, ouais.
Oui,
non, je vais.
C'est
je vais
chats qui coûtent.
Est-ce qu'on ferait pas tous un cosplay Ken à un moment donné, tu vois ?
Ouais. Ouais, on va faire ça.
Ouais.
J'arrive pas à le faire.
Non, mais même dans la façon de raconter des trucs.
Et
tu
oui,
vois.
Et voilà. Bien voilà. Et donc,
bien évidemment, évidemment, c'est formidable, Chloé.
Et évidemment, tout à fait. On va commencer. Tu sais quoi, on va commencer par une news, histoire.
Ah ouais, on se met dans le bain directement.
Ouais, une petite news là. Ouais, petite il y a un jingle ou pas ?
C'est l'ASMR incroyable ce jingle
éthéré,
à chaque fois.
T'as l'impression que t'es mort dans une gare et du coup, tu sais ce que t'entends avant de partir
et
dans
franchement,
le Valhalla.
Franchement, moi, tu m'enfermes dans une gare sympa, genre...
Aucune.
Non, aucune. Je pensais une gare de montagne, tu vois, une gare un peu où t'as du paysage,
t'as
machin.
Ouais.
Moi, je suis heureux. Je suis heureux de déambuler.
La gare de Maison-Alfort est très bien, voilà, je tenais à le dire.
Qu'est-ce qu'elle a de particulier ?
Eh bien, ils
est dans le
9-4. Ils ont refait le parvis de la gare. Il y a des petits bacs à eau, comme des pédiluves, mais qui sont des petites fontaines.
Okay.
Et puis surtout, il y a le bistrot de la gare qui, je crois, a eu une autorisation sans précédent qui lui a permis d'annexer l'intégralité du parvis comme sa terrasse. Du coup, ils sont quasiment en train de toucher le bâtiment de la gare, le Marie Blachère de la gare. Non, c'est très bien.
Alors, ça y est, on s'en fout du programme. On est complètement hors news. J'ai testé le bento de Gare de Lyon.
Ah oui, donc ça n'a plus. Ah si, j'allais dire, ça n'a plus aucun rapport
du tout.
Dans le bento de Gare de Lyon, là, il y a un truc qui avait d'une marque. Là, je fais le Monken Bogard.
Mais tu en avais parlé déjà.
J'en avais déjà parlé, mais j'avais pas testé. Et donc là, j'ai testé. J'ai pu tester en prenant le TGV pour aller, je sais plus où. Et c'est grave bon. C'est ultra cher. C'est dans le hall des départs, le hall 2 de Gare de Lyon.
Ouais, le hall 2, j'y vais jamais. Moi, je vais dans le 1.
T'as le Domac en bas et au-dessus t'as une espèce de petit pas food truck mais c'est une clasmat avec des vrais gens qui servent des japonais. Elles parlent japonais parce que j'étais à côté d'un couple de japonais qui ont commandé en japonais.
Ça se trouve c'est des faux clients pour donner un petit peu une ambiance.
Comme t'es vrai bento. Par contre, j'étais un peu surpris parce que donc t'as un bento à 17 balles quand même. Oui, donc faut pas tousser quand on te le commande. Et c'est réchauffé au micro-ondes. Genre vraiment, ils te filent ton bento à 17 balles. Ils font le micro-ondes, c'est là-bas. Ils disent c'est 2 minutes si tu prends ton train et 3 minutes si tu veux manger plus tard. Tu fais OK. Donc c'est grave bon.
Voilà. Ok, et eh bien voilà, donc encore un truc qu'on aurait pu faire sponsoriser, mais on l'a dans l'os. Et donc la news alors ?
La news, c'est que l'Union Européenne, le Parlement Européen, vient de voter pour l'interdiction de la vente neuve des véhicules thermiques à partir de 2035.
C'est couillu quand même.
Ouais, il y a tout un échelonnage. Alors 2035, c'est un peu plus tard que prévu, normalement c'était 2030.
Il me semblait que Volvo déjà avait dit de toute façon, nous 2030, il n'y a plus de voitures thermiques.
Volkswagen, ils étaient moyen chauds. Ouais. L'Allemagne en plus a plutôt botté en touche sur ce truc-là.
Bah oui, parce qu'on rappelle que c'est les plus gros consommateurs de diesel au monde, les Allemands quand même.
Oh non, ça devait être les Français, je crois qu'ils sont quand même, ils sont pas trop passés de motorisation diesel, ils aiment bien les gros blocs essence, mais ça va peut-être changer ceci.
Les Allemands, c'est quand même eux qui ont inventé le TDI.
Ah, c'est vrai, mais je pense que depuis le Dieselgate, il y a eu moins de ventes.
On rappelle que le Dieselgate, c'était Volkswagen qui avait légèrement triché
sur les contrôles. Hein,
lors des tests.
Genre, la voiture était capable de détecter quand elle était en condition de test et du coup.
Elle est sur deux cylindres.
Ouais, c'est ça. Il y avait un limp mode.
Ouais, non, ils sont malins, les Allemands.
Mais c'était fou parce qu'ils ont fait des comparatifs après. Entre le mode sur banc et le mode réel, et genre les émissions c'était genre facteur 100, un truc du genre,
c'était du mytho, mais après tous les constructeurs l'ont fait, mais c'est les seuls qui se sont fait péter, un peu comme François Fillon, tu vois. c'est le seul qui a payé pour les abus de toute la classe politique.
Je pense que Renault, ils sont allés voir le ministère, ils ont fait alors en fait, nous on n'a jamais fait ça, mais si, en fait, je suis sûr qu'ils ont tous niqué, mais. Alors, il y a quand même deux points de contention de ce truc-là.
Oui, donc de l'interdiction de vendre des véhicules neufs thermiques en 2035.
C'est qu'un, c'est pas encore vraiment ratifié. Il y a une.
Tout le monde essaie de négocier.
Faut que ce soit en gros. Le Parlement a dit oui, mais ça doit être vu avec les chefs de gouvernement, il me semble. Mm-hmm. Et l'autre baiserie, c'est que.
Celle-là, c'est la plus belle, je pense.
C'est vrai. Il y a une clause dedans qui a été nommée la clause Ferrari.
Ferrari du nom de la voiture.
Ferrari du nom du la marque de voiture, parce qu'il y a une clause d'exception qui dit que les véhicules vendus à moins de 1000 exemplaires sont exemptés.
Voilà.
Donc vous serez tous écolos, sauf les riches, sauf les ultra-riches.
Parce qu'évidemment, les voitures vendues à moins de 1000 exemplaires généralement coûtent très très cher. C'est pour ça que là, ce qui pourrait se passer.
Ou alors, elles sont très très nulles.
Ouais.
Parce que franchement.
Mais vraiment vraiment nul.
Ouais.
En fait.
Parce que une Lada, je suis sûr que c'est vendu à plus de 1000
exemplaires. Non, parce que c'est pas en vente, c'est produite.
Ah, je sais pas la subtilité.
Bah, il faut que t'en fasses moins de 1000.
Ouais.
Parce que si t'en fais 3 millions, mais qu'il y en a que 1000 qui sont vendus, bon bah.
Après, je serai un constructeur pour passer outre cette règle. Tu t'en déclares 999 vendus, et après le reste, tu fais des bons ou des trucs comme ça. Tu vois.
Ouais. Non, mais en fait, il va y avoir des baisses, en fait, parce que je pense que là où les gens vont s'engouffrer, c'est dans les différentes gammes. Et tu vas avoir, comme par hasard, des Clio RS spécial Maxi Sport. Vendu à 999 exemplaires et des Clio RS Maxi Sport 2.
Ils vont quand même vérifier. Après, oui, je pense que ça va.
En fait, tu peux jouer. C'est la même chose que la valse des étiquettes, tu vois, où en fait, tu changes une étiquette et boum, le truc est legit. Bon, bah là, je pense qu'on va se retrouver devant une baiserie comme ça. Donc, tu vas avoir plein de constructeurs généralistes qui vont bizarrement te faire des séries limitées à 1000 exemplaires.
Après, je pense qu'il y a plein de constructeurs qui sont en train de switch sur le full électrique.
Après, on voit par exemple que Renault a sorti une Mégane qui serait potentiellement intéressante.
Elle est très belle, en tout cas. Je l'ai
elle
vu
est
parce
très
que
jolie.
C'était la voiture officielle de Roland Garros. Je l'ai croisée dans la rue et
elle est très très jolie. Elle est réussie, mais le problème.
Mais alors, par contre, méga twist. Tout le monde trouve ça chiant les monospaces et toutes les berlines.
Ah bah, de toute façon, c'était
toutes les berlines 3 corps, type Mégane, Golf, machin et tout, dès qu'elles passent en électrique, elles sont tout de suite un peu plus hautes et un peu plus grandes pour faire
batteries.
Des trucs genre SUV, sauf que ça ressemble à un Scénic. Enfin, franchement,
monde,
tu regardes la nouvelle Mégane électrique, c'est un Scénic d'il y a 15 ans.
Tout le monde kiffe les monospaces, hein, c'est pas le problème. Puisque
c'est juste que c'est ringard. Et là, tu mets un coup d'électrique et c'est cool.
Non, en fait, le problème réel avec cette nouvelle Mégane qui avait tout pour elle, c'est que, apparemment, côté batterie, c'est de la merde et donc on ne comprend pas trop les use cases prévus. C'est-à-dire que c'est pas suffisant pour ça recharge pas suffisamment vite. Je crois qu'il y a un problème sur la puissance de recharge qui est autorisée.
Non, c'est possible.
Et que l'autonomie est pas ouf. Et en gros, voilà, ils disent que c'est une très belle voiture qui est faite pour faire de la route, mais malheureusement, tu peux pas faire de la route avec parce que la batterie c'est de la merde.
Est-ce que ce serait pas la France, ça, monsieur?
Bah oui, c'est
la France.
La France qu'on aime. Donc, en tout cas, voilà, 2035, plus de voitures thermiques, sauf si vous achetez des Ferrari.
Après, moi, je sais pas comment ça va se passer sur le marché de l'occasion parce que du coup. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le début de la NFTisation des voitures, puisqu'il va y avoir un nombre limité de voitures produites thermiques, c'est-à-dire qu'il va y avoir un nombre fini de voitures thermiques à partir de 2035.
C'est déjà le cas, cher enfant.
Oui.
Et tu penses que ça va prendre de la valeur?
Marché de l'occasion de la voiture sportive aujourd'hui est en train
Mais sachant que tu peux pas la mettre, tu vois, de moins en moins, tu vois, pouvoir l'utiliser en ville et tout. Est-ce que c'est pour les collectionneurs de voitures thermiques?
Je pense que va y avoir des collectionneurs, c'est sûr. Après, je pense que ça va être
actuellement
limité, quoi.
Ce qu'on appelle les young timers.
C'est donc attendez, ça veut dire que si j'attends jusqu'à 2035, je peux revendre ma C1 40 000 balles.
Je pense pas que ta C1 va prendre
la
beaucoup
C1
de
va pas marcher.
Alors là.
Non mais par exemple, tu vois, il y a un fort
Marc,
attrait
toi,
pour...
Toi, ta C1 à toi, tu la signes et tu mets... qu'est-ce que tu peux mettre comme goodies? Non, tu mets dans la boîte à gants, tout est sous-scellé. Mais tout est sous-scellé, première édition.
Mais je la vendrai jamais. Elle mourra avec moi.
Et là, tu peux acheter... 3 apparts de terre.
Elle sera enterrée avec moi.
Pour de vrai, il y a déjà une forte appétence pour les véhicules qui étaient absolument communs il y a 30 ans et qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc les 205 GTI notamment, les BMW E36, tous les trucs des années 80-90, on appelle ça des young timers. C'est-à-dire
ça a pris...
C'est pas des tractions, tu vois, c'est pas des deux chevaux, mais ça a pris une valeur.
Mais c'est parce qu'en fait, c'est la démographie des gens... qui rêvait de ces caisses-là à l'époque, donc il y avait entre 10 et 20 ans.
Oui, c'est le principe de la Air Max. Hein.
Et du coup, maintenant, ils ont les sous pour les acheter, et donc du coup, ils essaient de trouver les beaux
modèles. Enfin, t'achètes une 205 GTI à 18 000 euros, ça fait mal au fion quand même, parce qu'elle a été vendue 18 000 francs, la bagnole. Hein,
mais tu sais que par exemple, j'ai regardé la Renault 5, la Super 5 avec le moteur à l'arrière, tu regardes le prix où elle a été vendue, ajustée à l'inflation, et aujourd'hui, en fait, la voiture, elle a jamais décoté, elle a jamais perdu de sous.
Ouais, non mais après la Renault 5 avec le moteur central arrière, c'est une voiture
de rallye.
C'était pas une voiture avec laquelle t'allais acheter ton pain.
Non,
hein,
Alors attendez, je rebondis habilement sur ce que vous êtes en train de dire.
Oui. J'ai eu une Renault 5 d'ailleurs, une Super 5, je l'ai tuée.
Ouais, moi aussi j'avais une Super 5 automatique.
La Baccara? Non.
La Baccara.
Elle s'appelait Baccara.
Finition Clio, ça, Baccara.
Elle était blanche, automatique, trop belle. Bref.
Ah non, c'est pas la Baccara.
Est-ce que vous avez entendu cette news? Commençons par deux news. De toute façon,
cette émission n'aura aucun sens.
Ouais. Est-ce que vous avez vu la news de la fameuse Peugeot 307 qui a dépassé le million de kilomètres?
Non.
Vous avez pas suivi ça?
Non, je peux pas.
Ok, c'est parce que j'ai regardé le journal de M6 et c'était dans les news. Et c'est un monsieur qui a acheté sa 307 d'occasion en 2007 et qui a passé le million de kilomètres sans changer de pièce de moteur.
Et donc la France, monsieur.
Mais oui, increvable, 1 million de kilomètres et donc du coup le compteur n'était pas fait pour, donc c'est bloqué à 999. Et non, ça c'est resté bloqué et donc dans le reportage, je sais plus si c'était M6 ou France 2, il va jusque du coup à l'usine
Peugeot.
Peugeot et tout le monde l'accueille, et tout le monde il pleure un peu, c'était très beau quoi.
Bah, est-ce qu'ils lui ont filé une 308 9?
Non, je pense que si elle continue à marcher, je vois pas pourquoi il la change.
Non, mais c'est intéressant parce que moi j'ai une 207 de type RC, donc un petit peu énervé. J'ai changé la chaîne de distrib au bout de 30 000 km parce que le moteur s'était cassé en fait.
Mais est-ce que tu roules pas comme un âne? Non. D'ailleurs, tu roules plus. Parce que t'as...
Je roulais pas comme un ouf, c'est-à-dire que j'attendais que le moteur soit monté en température avant d'allumer. Après, voilà. C'est,
après, j'étais au fond de première tout le temps, mais.
Ben, après, voilà, c'était les voitures où, bon, tu remets un coup de troisième quand t'es à 130 sur l'autoroute et ça passe, tu vois. Donc, voilà. Mais non, c'est juste que c'était un moteur fait en collaboration avec BMW qui équipait également la Mini Cooper S qui était nulle à chier. Donc,
oui,
de rappel.
Oui, oui.
Donc, je redonne juste des informations. Il a juste changé la boîte de vitesse et l'alternateur. C'est tout.
Alternateur,
c'est... Eh ben,
c'est beau quand même.
J'aimerais bien qu'il arrive et on lui dit, on lui ouvre un hangar, on a dit, regardez monsieur, ça c'est l'équivalent de tout le CO2 que vous avez produit sur le million de kilomètres. Vous avez tué 14 000 enfants.
Non, mais 1 million de kilomètres en Peugeot, c'est bien.
Bah
franchement,
ouais.
C'est très très
sans
bien.
Sans rien changer. Ouais.
C'est beau.
Ouais, quoi.
Est-ce que ça, c'est pas écolo? De rien changer.
Bah non, mais je sais pas. Après, chaque fois, vous m'engueulez parce que j'écoute pas ce que vous dites, mais moi, je trouve ça écolo de garder une voiture 12 millions d'années. Mais non, je sais, je sais. Et on se fait avoir.
C'est comme les chargeurs.
Non, mais écoute, moi, j'aime bien le symbole. J'aime bien le symbole.
Et puis, acheter français.
Pour rester justement sur le domaine automobile, on va parler un peu de technologie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu la conférence WWDC d'Apple.
Attends.
Oui.
Jingle.
Ah oui.
Jingle chronique.
Jingle chronique. C'est pas une chronique, mais ok.
Là, on rentre dans le sujet.
Voilà, donc lundi soir, n'est-ce pas, la WWDC, donc la Worldwide Developers Conference d'Apple, un événement annuel qui accueille tous les développeurs qui veulent bosser sur macOS, iOS et tvOS et watchOS. Et du coup, ils ont présenté, évidemment, en plus du nouveau MacBook Air avec des nouveaux processeurs, ils ont présenté un ajout pour CarPlay.
Oui.
CarPlay qui est le mode qui permet en gros de faire du mirroring de son téléphone quand on le branche dans sa voiture sur l'ordinateur.
Alors je traduis, en gros vous pouvez avoir un GPS qui marche bien.
Oui, alors en gros ça déporte l'écran de votre iPhone
sur l'écran
de la voiture.
C'est comme si tu castais sur ton écran de voiture.
Exactement.
Okay.
Exactement. Et donc jusqu'à présent c'était limité à l'infotainment, c'est-à-dire que tu avais accès à Spotify, Google Maps, plan, etc. Et Apple a dit, écoutez, pourquoi ne pas aller plus loin ? Et ils ont présenté le next level de CarPlay, c'est-à-dire que cette fois-ci quand tu branches ton iPhone dans ta bagnole, si ta voiture a des écrans, tu peux potentiellement avoir toute l'interface utilisateur.
Y compris les compteurs.
Y compris les compteurs qui sont en mode full Apple. Ça ressemble en gros à des cadrans. Enfin, en gros, les compteurs ressemblaient à ce qu'on trouve sur les Apple Watch, jusqu'à la police un petit peu arrondie, etc.
Est-ce que tu peux remplir tes cercles comme l'Apple Watch
limite, voilà. Donc, du coup, il montrait évidemment pour illustrer ça une planche de bord type Mercedes, c'est-à-dire avec vraiment un écran qui fait l'intégralité de la planche de bord. Et, ouais. Voilà, donc c'est, en plus, c'est ridicule, mais bon, bref. Et en fait, j'ai vu ce truc-là et j'ai dit, c'est une hérésie. C'est une hérésie.
Avec ce ton-là.
Oui.
Tiens, c'est une hérésie.
C'est une hérésie. J'étais en live comme ça, je regardais le truc, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette mongolerie?
Bah, c'est surtout qu'en fait, moi, j'ai un peu l'impression qu'ils ont tout fait pour que la voiture, ça marche, mais sauf qu'ils n'ont pas fait la voiture. Et je pense que Apple, ils étaient vraiment pas loin de sortir un truc électrique.
Honnêtement,
et qu'ils sont révisés.
Je pense qu'ils ont vu Tesla, ils se sont dit, en fait, on s'improvise pas fabricant de bagnole, c'est quand même une industrie, ça fait 100 ans que ça existe, il y a peut-être une raison, on va pas faire ça. Par contre, effectivement, ce qu'ils proposent, c'est ni plus ni moins que de se substituer à toutes les informations et toute l'ergonomie et l'interface utilisateur de chaque constructeur. Et donc, en fait, le principe pour moi, ce que j'ai vu, c'est que donc, tu as une Audi, tu mets ton iPhone, c'est une Apple. Tu as une Mercedes, tu mets ton iPhone, c'est aussi une Apple.
Alors, moi, du coup, je suis un peu partagé sur ce truc-là parce que. Enfin, pour trois raisons. T'as vu, je.
Vas-y. Trois points.
Le premier point, c'est que moi, de base, le fait d'avoir un écran sur l'intégralité de la voiture, je trouve que c'est vraiment complètement con. C'est-à-dire que pour moi, une planche de bord, c'est de l'information pour de l'aide à la conduite.
Exactement.
Jusqu'à preuve du contraire, un cadran à aiguille avec pas de truc qui se réfléchisse dessus, c'est le machin le plus visible en
le
jour, de
visible,
nuit, de machin. Ouais. C'est vraiment hyper simple, ça tombe pas en panne. Là, t'as
alors
un écran
si, mais ça va quand même.
Voilà, non, mais c'est assez facilement réparable. Oui. Là, t'as un écran TFT avec un truc où, genre, t'as bien vu des écrans quand ils ont 20 ans, machin, ça commence à être un peu dégueulasse et tout. Donc, du coup, les voitures, je suis pas sûr qu'elles soient très.
Surtout, faudrait énormément de riz si jamais ton écran prend
la flotte. Voilà. Donc,
attention les blagues racistes.
Alors, non, bah, attends, tu peux utiliser parce que j'ai niqué un iPad quand même.
Et tu l'as mis dans le riz, ça a vraiment
non,
marché.
Mais j'aurais dû le mettre dans des trucs de silice.
Ah oui, des trucs.
Ah oui,
d'ailleurs,
oui.
Dédicace à Audrey Herculea qui bosse avec l'âme chez les numériques, celle qui m'a réparé mon écran.
Ah, tu vois, c'est incroyable.
J'aurais dû
bisous
prendre la
Herculea.
Bref, tu as vu, c'est raccord avec Apple. Ouais. Mais les bits silice que tu as dans, ouais, dans les trucs.
Quand on achète n'importe quoi, voilà, ouais, même du beef jerky. Hein.
Ça marche très très bien pour retirer le.
L'humidité, c'est à ça que ça sert.
Deuxième point.
Vas-y. C'est pratique.
Deuxième point, je pense que les constructeurs n'ont pas intérêt à le faire. Parce que.
Là, en fait, les constructeurs, avec l'avènement des écrans full partout dans les planches de bord, ont embauché des designers pour travailler sur l'UI.
Soit en fait, tu externalises ce truc-là parce que tu sais que Apple, ça va être meilleur que ce que tu fais. Ce qui est vrai, parce que tu regardes, moi, j'en ai déjà parlé ici, mais les options à 2000 balles chez Mercedes où ton GPS, il est 15 fois plus nul à chier que Waze que t'as sur ton téléphone. Alors en fait, tu te retrouves avec une option où tu mets juste une ventouse sur ton pare-brise et t'as un téléphone qui marche mieux. Bah, ouais. Tu vois, moi, ma voiture qui a 20 ans, je mets mon téléphone dedans, ça marche hyper bien et je me pose pas la question. J'ai pris les petits supports MagSafe là qui se mettent sur les. Ouais. Avec des aimants, c'est merveilleux. Mmh. Tu clipses ton téléphone sur ton tableau de bord, ça te fait ton écran, il marche bien, ça charge ton téléphone, tu le récupères, ta planche de bord, elle est nickel. T'as pas besoin d'un écran qui fait 12 000
la largeur du diamètre.
Ouais. Mais du coup, moi j'ai une question, si ton téléphone n'a plus de batterie.
Bah, bon, en fait, c'est branché à l'allume-cigare.
Non, en fait, il le charge.
Non, je veux dire, dans le truc.
Oui, il le charge.
Ah, oui, mais s'il y a une couille de rechargement.
Tu n'as plus de.
Bah,
en fait, tu repasses sur le module standard.
Ah, donc
c'est
un
bagnole.
Module standard, ok.
Ouais.
Okay.
En fait, ce qui se passe.
Ah, oui, non, tu veux dire, moi,
c'est ce qui se passe avec CarPlay. C'est-à-dire que quand tu plugues ton iPhone, bah, CarPlay remplace le système de la voiture.
Après, en général, sur les voitures, c'est soit tu le mets pour que ça marche, il faut que tu le mettes en filaire, donc tu branches en câble. Soit maintenant, il y a plein de voitures modernes, enfin neuves en tout cas, où tu glisses ton téléphone dans une poche. Bah, sur la voiture d'Anui, l'ID3 là, tu balances ton téléphone, t'as le chargement sans fil.
Oui, mais alors justement, en parlant de ça, je sais pas si vous, ou alors c'est que mon téléphone qui fait ça, mais moi quand je mets le GPS, il fait 500 degrés mon téléphone,
ouais,
c'est une heure de route.
Oui,
donc en plus, avec le truc à induction là, je pense que ton téléphone il explose.
De l'avantage d'avoir un truc sur les grilles de ventilation parce que t'as la clim qui s'ouvre dessus.
Non, ouais, en fait, le truc, globalement, pourquoi c'est une idée de merde, je vais vous le faire en un point, parce que ça a chié.
Laisse-moi développer mon troisième point après.
Parce que là, t'en as 18 points.
Non, le troisième point, c'est que je pense que les constructeurs vont perdre de leur identité, parce que la planche de bord.
Exactement, mon deuxième point.
La planche de bord, c'est un truc qui marque une voiture. Les Mercedes, t'avais le compteur de vitesse, tu sais, où tu voyais pas l'aiguille centrale, ça montait au milieu. Les Porsche, t'as le compteur de tour qui est au milieu avec les deux autres trucs, tu vois, genre c'est un truc qui est vachement identifiant dans une voiture. Si tout le monde
c'est
a
le
la
sentiment
même caisse,
d'appartenance et voilà. Bah, en fait, ça veut dire que le mec dans une Mercedes Classe S ou le type dans une Porsche 911 aura la même planche de bord qu'un mec en Fiat 500.
Ça veut dire
que ça va pas marcher en fait.
Ça peut marcher sur des voitures qui seront plus impersonnelles du coup, qui sont des voitures que tu partages.
Je trouve que c'est une idée de merde. Précisément pour cette raison, c'est-à-dire que Apple a cette tendance à vouloir uniformiser plein de choses et souvent les gens se disent on s'en bat les couilles, let's go.
Ouais.
Sauf que la voiture, je pense que les gens, enfin moi j'ai vraiment un affect avec la planche de bord d'un véhicule qui pour moi est l'identité de la bagnole. Alors j'en ai parlé sur Twitter, il y a des gens qui me disaient ouais, enfin le tableau de bord c'est pas ce que tu regardes quand t'as l'acte d'achat. Je lui ai dit mec, le tableau de bord c'est ce que tu regardes tous les jours quand t'as l'acte de conduire. Donc à un moment,
après vous êtes déjà pas dans le futur les gars, puisque il n'y aura plus de voiture personnelle.
C'était ça la question, c'était de dire est-ce que je suis un boomer de mon âge avec la nostalgie des voitures, des cadrans à aiguille, ou est-ce que vraiment on va arriver sur un truc où déjà de toute façon les jeunes passent plus le permis.
Les jeunes, dis donc.
Si dans ta ami du futur, tu balances ton iPhone et t'as tout ton truc qui est dedans, je vais dire ok.
Et donc je me fais l'avocat du diable. Justement, si tu ne te déplaces qu'avec des voitures de location ou des choses comme ça,
tu retrouves exactement.
Ouais. Et c'est pas si con finalement.
Alors apparemment, il y aura des options de customisation qui permettront d'agencer les éléments comme tu le souhaites. Donc ça, effectivement, c'est un truc assez sympa.
Ouais.
C'est-à-dire que si jamais tu te fais ton petit tableau de bord custom, tu peux le retrouver quelle que soit la voiture que tu utilises. Moi, là où ça m'emmerde, c'est qu'effectivement, ça va uniformiser tout le truc. Donc, tout le monde aime la glace à la vanille, tu vois, c'est un peu claqué. Et puis, y a quand même, on peut le dire, à peu près 80% des informations qui sont remontées qui sont absolument dispensables.
C'est surtout ça
le problème, c'est que ça te gêne dans ta conduite.
Voilà, dans le mock-up d'Apple, pour illustrer la fonctionnalité, t'as... le niveau d'air de, tu sais, la qualité de l'air de Oakland, de San Francisco et Cupertino, on s'en bat les couilles. Tu as évidemment tes trois prochains rendez-vous sur le tableau de bord de ta voiture. On en a un peu rien à foutre, t'es là pour conduire.
Non mais c'est ça en fait. Moi le truc qui m'agace le plus, c'est qu'en fait
c'est plein d'infos qui sont parasites.
Est-ce que ça veut dire que t'es notif de messages pop
sur
ton tableau de bord? Donc ça veut dire que si tu veux pas que certains des gens de ta voiture voient tes messages.
Non même juste c'est
compliqué.
C'est hyper distrayant en fait comme truc.
Ouais, de ouf.
Et là où je voulais revenir sur le côté future-proof, c'est-à-dire que c'est à la fois un machin où tu te dis bon bah ça va, mon iPhone va évoluer avec le temps et j'aurai une planche de bord qui va adapter, finalement c'est mon téléphone qui fera processeur, donc ce sera fluide tout le temps. Mais en même temps moi je me dis, si dans 20 ans on a plus de métaux rares pour faire de la technologie et qu'en fait on va devoir avoir des voitures plus simples, moi je préférerais avoir tu vois, sur une voiture électrique où quand même l'enjeu c'est l'autonomie, si tu fous pas une dalle d'écran. Alors après, je sais pas combien de trucs ça représente sur la consommation, mais...
Non, mais ça a un impact, forcément.
Tu vois, et je reviens toujours à l'idée 3, parce que j'ai peu d'exemples de voitures électriques que je trouve réussies, mais celle-là, elle est vraiment particulièrement cool.
Elle était sympa, hein, la nuit, il est venu avec au camp.
T'as la planche de bord, donc l'écran central, qui est un truc où, en gros, quand t'es à l'arrêt, tu dis, bon, bah voilà, je vais aller là, machin et tout, t'as ton truc. Quand tu roules, ce machin-là, il s'éteint, en gros, et ça fait radio. Et t'as juste un tout petit écran avec le minimum des informations, genre ta vitesse, si t'as une voiture devant toi, machin et tout, avec l'affichage tête haute au-dessus. Tu es en mode, mais t'as rien. Enfin, pour moi, la modernité et le futur, c'est ça, tu vois, c'est t'as rien dans ton champ de vision.
Quentin dit, eh oui.
Et Quentin dit, eh oui, parce que moi, avoir un écran plasma qui fait 28 000 pouces, la Honda, ils ont foutu un aquarium dedans. Tu peux avoir un aquarium en vidéo, en gif.
C'est genre, et un feu de cheminée, ça
c'est, non, mais c'est ça. T'as ton écran de veille Windows sur ta main. Mais cassez-vous, laissez-moi un truc.
Rappelons que Exhibit avait déjà fait ça il y a 20 ans.
Oui.
Bah ouais.
Les écrans géants.
Tu mettais des vraies télés dedans. Non, mais en fait, c'est vrai que les futurologues que je suis, lead évangéliste futurisme, se posent la question du... Moi, on m'avait vendu justement les affichages tête haute qu'il y avait dans les avions de chasse, dans les voitures.
Oui.
En mode, ça te permet de pas quitter les yeux, la route des yeux, ouais. Ça te permet d'avoir toutes les informations à porter, machin, etc. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Ça a disparu.
Mais je sais pas, mais
on est passé d'un mode affichage tête haute de F16 à un écran plasma.
Mais surtout
en
qu'il y avait
16/10.
Ça dans les C6 il y a 10 ans. Mais quoi, oui. Genre c'était, c'est, enfin ça me
et
paraît quand même pas
compliqué. Ils le font, mais ils sont allés plus vite à tout remplacer par des écrans LCD à la con plutôt que de généraliser le tête haute, même sur des petites voitures qui n'ont pas vocation à.
Et est-ce
des
que
avions.
C'est un écran tactile ou pas?
Oui, oui, parce que sinon c'est pas. Parce genre, que t'as moi... des grosses traces de doigts dégueulasses.
Déjà, ouais. Mais rappelez-vous que moi, feu paupiette, voyageait avec moi sur le tableau de bord avant.
Ah bah.
Donc je me dis qu'elle aurait bien tout niqué avec ses petites patounes, quoi.
Alors, ses grosses griffasses.
Je sais pas si les pattes de chat fonctionnent sur les.
Bien sûr que si.
Ça fonctionne.
Oui, okay. T'as des jeux pour iPad pour chat.
D'accord.
Ils attrapent des petits insectes.
Pourquoi je suis surpris de cette. Évidemment, c'est logique.
Non, mais tu vois, moi, une planche de bord ultra clean, tu vois, genre avec ton cuir capitonné, t'es dans ton fauteuil club anglais, chez toi. Moi, ça me va bien comme idée de luxe.
Ce qui va se passer, c'est qu'à l'époque, au tout début de l'iPhone, il y avait un mec qui s'appelait Scott Forstall, ok? Il bossait chez Apple. C'était le responsable de ce qui s'appelle le skeuomorphisme, c'est-à-dire quand tu essayes sur une interface tactile écran de singer la réalité. C'est-à-dire que si vous vous rappelez les premiers iPhones, quand t'allais dans Game Center, c'était un tapis vert de casino. Quand t'allais dans l'application Note, t'avais un petit bout de feuille déchiré,
c'est vrai.
Tu vois, pour faire comme si. Voilà. Ce truc-là a disparu totalement 2 ans après. Le mec s'est fait lourder parce qu'en fait c'était insupportable.
Bah oui,
tu n'utilises pas un écran pour faire comme si t'en avais pas, c'est débile.
C'est,
mais là je me dis, avec la voiture qui a maintenant des écrans absolument gigantesques partout, on peut refaire du capitonnage avec une texture, ou une texture carbone, ou une texture aquarium. Et moi, je trouve ça super, parce que ça veut dire que Scott Forstall va revenir.
Ah.
Il n'est pas mort. Attendez-vous à manger du skeuomorphisme, ça va être horrible.
Non, mais
c'est comme ça qu'on finira cette chronique.
Je bifurque. Je bifurque sur un truc de cycliste qui m'a déclenché, pour pas dire trigger.
Ouais.
C'est que il y a plusieurs fois où quand t'es cycliste et que tu dépasses un camion, t'as une petite appréhension quand même.
Il y a les stickers angle mort, je te vois pas. Hein.
Oui.
Et sauf qu'en fait, moi, il y a plusieurs fois, je dépasse des camions, je me dis putain, il a son rétro qui est cassé. Et en fait, non, c'est les rétros à caméra, mais sauf qu'en fait, t'as juste le haut du rétro avec le zigouille, mais il manque tout le miroir. Tu vois.
Ouais.
Et du coup, je me dis, bon, bah, ils ont ça en vue intérieure avec des écrans, mais je me dis, un miroir, le truc, dans 40 ans, il marche encore,
oui,
tu vois.
Vrai.
Là, un truc avec.
Je pense que ça coûte moins cher que plein de caméras.
Alors, à remplacer. Et tu
je suis pas sûr en plus.
Tu pètes un. Tu pètes un.
Une caméra.
Non, mais une caméra, ok, mais le bloc
d'écran.
Non, mais
ce qui compte, c'est le grand angle. C'est que ton miroir, pour avoir un miroir grand angle, il faut que t'aies des bulles Botron de chaque côté. Du coup, tu peux plus te faufiler dans les petites rues, tu risques d'assommer les gens. True story.
Ah,
moi, le danger avec les bus, c'est quand même de me prendre un rétro dans la gueule quand je suis sur le trottoir et que le bus passe.
C'est vrai.
Mais c'est parce que tu dépasses du trottoir.
Non. C'est parce que le bus, son
Comment t'étais habillé aussi.
Ah bah oui, ça
fait. T'étais habillé, je suis sûr que tu l'as guiché le rétro.
Et d'ailleurs, hein, ces petits stickers angle mort, j'étais derrière un bus tout à l'heure, tantôt, en vélo.
Tantôt.
Et en fait, bah du coup, j'ai réalisé qu'il ne voyait absolument rien de nulle part à part devant lui.
Oui, et tu te demandes comment ces putains de véhicules sont autorisés sur la route. Mais oui.
Tout en angle mort.
Bah sauf en Angleterre où
ils.
Angle mort, Angleterre.
Non, mais les gros camions, ils sont obligés d'avoir des petites caméras partout maintenant.
Bah tu vois. Donc effectivement, on se posera la question de comment ça vieillit.
Et bah voilà, mais je sais pas si c'est comment ça vieillit, parce que tu vois, moi, genre, un camion dans 20 ans qui a caméra, si je me dis que son truc il est tout niqué, machin, enfin, je vais.
Oui, mais comme tout, à ce moment-là, si tu dis oui, mais un jour le moteur il va se casser, bah oui, tout change quoi, en fait. Oui.
Bah oui.
C'est vrai.
Je doute qu'un mec qui a un camion se dise oh bah ça va, j'ai plus de rétro.
Je vois plus rien, ça va.
T'as déjà vu les Renault Master qui roulent
Oui. Alors ça signait la fin de la chronique sur le tableau de bord Apple, donc je rappelle le résumé de cette chronique. C'est de la merde, le tableau de bord Apple.
alors que t'es un grand fan de l'iPhone.
J'aime bien l'iPad, j'aime beaucoup les Mac et j'aime énormément l'iPhone, mais là franchement, fausse bonne idée. Voilà. Aurais-je tort, aurais-je raison? L'avenir nous le dira. Je crois qu'Android fait déjà la même chose, donc en gros, l'avenir est dark. L'avenir est bleak, l'avenir comme on dit en anglais.
Memphis.
Fin de la chronique. Est-ce qu'il y a un jingle pour autre chose? Ah bah allez. Une petite news, Dame Chloé.
J'ai une reco. Ah. J'ai le droit de changer ou pas?
Bah oui, on avait introduit ça.
Alors j'ai une reco.
Vas-y, qu'est-ce que c'est?
Bah c'est Top Gun Maverick.
Je l'ai pas vu. Est-ce
moi
que
je l'ai
bien
vu.
Aïe, c'est si bien.
Fan service sur 20 quand même.
Aïe, c'est si bien.
Ouais. Mais tout le monde est d'accord.
Est-ce qu'il dit I got the need for speed ou pas?
Non.
Non. Pourquoi en plus c'est intéressant que ça soit moi qui raconte cette reco? C'est que je suis quand même un peu écolo. Les avions, j'en ai rien à battre.
Tu ressembles à Jennifer Connelly.
Pardon.
Oh, merci.
C'est
parce
un
qu'elle est bonasse. Non, mais Quentin, ça n'est pas contre toi, bien évidemment. Mais j'ai été scotché. Alors, bien sûr, j'ai 40 ans, donc forcément, le Top Gun 1, je l'aimais beaucoup.
Oh oui.
Alors que
tu l'as revu récemment.
Moi, je l'ai revu récemment.
Non, j'ai pas envie de le revoir forcément.
C'est.
Non, il marche. Il marche toujours bien.
Je l'ai montré.
Alors, non, attends, je l'ai montré à ma chère étendue. Et on s'est imaginé, parce qu'on regarde, on écoute beaucoup 2 heures de perdu. Et on s'est imaginé juste le mec en salle de montage.
Chacun.
Il a deux pistes. Il a deux pistes audio. Et il y a une piste, c'est Danger Zone, et l'autre piste, c'est. Et
genre,
en fait, il y a deux chansons dans le film.
Non mais la BO de Top Gun Maverick, extraordinaire.
C'est faux parce que le meilleur morceau, c'est celui d'Harold Faltemeyer, qui est le générique d'entrée avant Danger Zone, c'est-à-dire toute la partie qui est douce.
Ah oui, sur le montage
truc se met en place, sur le porte-avions. Et...
Donc, on continue. Pour moi, une écolo, alors déjà, porte-avions, la guerre, tout ça, rien.
Le porte-avions, c'est nucléaire, donc 0-0.
Moi, c'est vrai, t'as raison. les avions, à chaque fois qu'ils faisaient des petits entraînements, j'étais à combien de litres de
kérosène? Ah, bah là, faut pas se poser
la
question.
Mon Dieu.
Oui.
Mais je trouve que c'est génial, c'est bien écrit. C'est, moi, j'ai
alors,
été...
c'est
et
bien
surtout...
écrit, c'est une mission d'escombat, hein, clairement.
Ouais, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait, par rapport à. Non, je peux pas te dire de mal de Fast and Furious parce que c'est
meilleur. Si, on peut.
Bref. Tout ce que je voulais dire, c'est qu'en plus, moi, j'avais pas su les coulisses du film. Donc, du coup, je ne savais pas que c'était lui qui volait.
Réellement, oui.
Et qu'en fait, pour les petits acteurs, ils avaient des webcams devant eux. Qui déclenchaient au moment où ils pensaient qu'ils jouaient bien le truc. Ils étaient vraiment dans les. Donc, je trouve ça extraordinaire en termes techniques.
Ouais.
Et ça rend vraiment bien. C'est-à-dire que moi, je ne l'ai pas vu en 4K, machin, mes couilles, voilà. Mais j'étais quand même un peu scotchée à mon siège, surtout pendant la scène du beach volley. Oula, piou 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 piou.
Incroyable,
quel bonheur.
Tom Cruise, il vieillit à l'envers, c'est Benjamin
Button.
Surtout
le petit Miles.
Miles Teller, bah oui, évidemment.
Alors, contre Rocco, le dernier Floodcast, il y a Pierre Ninet qui est invité, et il parle
du Chant du Loup.
Non,
de Tom Cruise.
Il parle de Tom Cruise parce qu'apparemment, il est très pote avec Pomme, je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice
Avengers.
Québécoise.
Pomme Clémentieff.
Non, elle est française.
Exactement.
Oui. Oui.
Elle est québécoise.
Ah bon?
Ouais.
Okay.
Ah bon? Parce qu'elle était aussi dans Les Caïras, je crois.
Et il raconte que Tom Cruise vole en avion et genre il se rend au rendez-vous avec son avion, mais il est seul. C'est-à-dire que le mec il arrive, il atterrit, il fait bonjour, c'est moi, c'est Tom Cruise.
Mais ça m'a pas choqué plus que ça parce que je me dis, t'as pas besoin d'être.
En fait, Kobe Bryant,
excusez-moi, moi je suis hyper impressionné. Je sais que notre Real, il vole en 380.
Ce qui m'a épaté dans les secrets de tournage, c'est qu'il a sa propre compagnie d'assurance.
Oui, bah oui.
Et ça c'est pratique. Génial.
Bah oui, parce que de toute façon, personne ne voulait l'assurer. Donc, à un moment donné, il a dit, si c'est ça, je vais la faire moi-même.
Mais donc voilà, en sachant ça, si vous allez voir Top Gun Maverick, sachez que c'est vraiment lui qui conduit, qui pilote, et c'est assez impressionnant.
Moi, c'est un film que j'attendais depuis pas mal de temps, parce que le premier Top Gun, c'était quand même 85, donc ça fait un peu longtemps. Alors, il y a une machine de marketing qui s'est mise autour de ce film d'un seul coup, genre il y a un mois. C'est devenu le film le plus attendu de l'année, alors que plus personne. Parce que moi, ça faisait 2 ans que j'attendais qu'il sorte, parce qu'il était reporté à cause du Covid.
Mais parce que c'était à la sortie de Cannes et que c'est sponsorisé par l'armée de l'air.
Non,
surtout,
mais là, c'était n'importe quoi. Je veux dire, d'un seul coup, le film, c'est devenu le film de l'année. Alors attention, calmons-nous quand même.
Écoute, moi, je trouve que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film aussi généreux.
Oui, c'est vrai que.
Je trouve que c'est généreux, quoi.
On dirait vraiment
moi, je veux pas,
c'était généreux. C'était gourmand.
Je veux pas spoiler le film, mais déjà, t'en prends plein la gueule pendant tout le film. Ouais. Et à la fin, il te dit, tiens, il nous en reste encore.
Ouais.
Et là, t'en prends méga plein la gueule, surtout si t'as bien aimé le premier. Donc, tu te dis, allez, let's go. Moi, franchement, tous les gens qui l'ont vu, que ce soit des gens qui aiment les avions, comme moi, j'aime les avions, notamment les avions de chasse, ou pas.
Oui, je m'en fous et j'ai pris un plaisir.
On en prend plein la gueule parce que les scènes filmées sont folles.
Ouais.
Quentin, tu l'as vu ?
Non. Putain, mais Quentin,
le seul mec qui est pilote
mais
ici.
Mais on y va ensemble.
Ah, mais enfin.
Merde, alors, mais le 1 il a
Non, vous savez quoi, Quentin, tu es cancel.
Oui, voilà. Quentin, tu arrêtes maintenant et tu vas au cinéma.
Voilà, c'est quand même incroyable. Le mec, il a jamais vu Top Gun. Alors que la moitié des pilotes de la chasse française, c'est parce qu'ils ont vu Top Gun qu'ils sont devenus pilotes de chasse.
Non, mais surtout qu'en plus, je suis sûr que tu vas le voir et à chaque décollage,
Non, franchement, donc très très bon.
Au montage, s'il te plaît, Made in Your Zone.
Très très bonne reco, Chloé. Je pensais pas que ça te plairait, tu vois.
Ah si.
Et un truc intéressant à noter, pour une fois, le love interest du film a quasiment le même âge que Tom Cruise. Et c'est Jennifer Connelly.
Elle est incroyable,
mais elle a 50 berges. Eh ben franchement, bravo, parce que ça suffit. Tom Cruise qui a près de 60 ans.
T'as un peu spoilé quand même, quoi.
De quoi ? Mais non, mais c'est dès le départ.
Bah oui, c'est dans
la seule meuf du film.
C'est la seule meuf du film,
en plus, ça doit être un gros salaire, donc elle est dans le trailer. Donc voilà. Donc vraiment.
Tom Cruise, il a bien vieilli, cet enfoiré.
Bah il vieillit pas, en fait.
Mais je pense qu'il s'injecte des hormones de vierge.
Bah en même temps, la scientologie, il y a des démons et tout, quoi.
Oui, c'est
vrai. Ah oui, mais je suis sûr.
C'est vrai. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, belle reco. Allez voir Top Gun Maverick, c'est chouette. Ouais. Ça fera pas avancer la planète, mais ça vous fera kiffer. Non, pas la peine. Ça, c'est pas la peine.
Pourquoi ?
Parce que c'est les ennemis de qualité.
C'est les ennemis de qualité ?
Il peut y avoir qu'un podcast sur Terre.
Mais tous les autres sont nos ennemis.
Déjà, ils font 853 fois nos écoutes.
Alors,
pas sûr.
Les écoutes de commute, en tout cas.
Et en plus.
En plus, il y a ton mec qui y va régulièrement.
C'est vrai.
Il me fait beaucoup rire.
Bon, écoutez le flotte.
Marco, c'est Pierre Lapin.
Écoutez Pierre Lapin. Suivez-le sur Twitter, il est très drôle.
Bon, alors, ça, c'était une reco. Est-ce qu'on peut passer sur une autre news chronique/slash je ne sais pas ?
Ouais, Chloé.
Oui.
Freestyle, l'émission.
Oui, parce que je vais remettre les pendules à l'heure, parce qu'on a l'impression que cette émission est en freestyle, mais pas du tout.
Pas du tout.
Parce que, souvenez-vous...
C'est juste qu'elle est souple.
Souvenez-vous que c'est la deuxième émission de l'année.
Ouais.
On est bien dans les temps.
Pas mal.
Troisième.
Non, la deuxième.
Non. On a fait nouvelle formule, into élection, into ça.
Ah oui, mais élection, c'était un peu hors nouvelle formule. Mais rappelez-vous que notre nouvelle formule, c'est d'avoir un sujet commun. Sauf que Daz avait oublié que ça existait parce que
remettons l'église au milieu du village.
Si, parce que t'as dit, moi j'aurais cette chronique sur les tableaux de bord, qu'est-ce que vous faites? Et on a fait, il faut qu'il y ait un sujet commun.
Le sujet commun, c'est la tech.
Oui, t'as trouvé ça après.
C'est moi qui ai proposé le truc pour recentrer.
Donc,
c'est moi.
Donc, il y a un vrai sujet commun, la tech. Alors, moi on me dit tech.
Paf.
Je m'en bats un peu les couilles, donc je dis, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter?
Oh, je suis pas inquiet.
Et je suis tombée sur ces petites news rigolotes où je suis un peu en retard, pardonnez-moi, mais sur comment suivre les jets des milliardaires dans le monde.
Oui, bien sûr, il y avait déjà le cas avec Elon Musk.
Oui, alors si vous ne savez pas, effectivement, il y a un jeune adolescent aux États-Unis qui a monté un compte Twitter qui s'appelle Elon Jet et qui a décidé de mettre en ligne tous les déplacements du jet d'Elon Musk.
Il faut rappeler que les déplacements des avions sont dans le domaine public.
Tout à fait.
Et consultables sur plusieurs sites. Et à partir du moment où tu as l'immatriculation de l'avion, tu peux voilà. savoir où il est et où il va.
Sachant que bien sûr, il dit
s'il dépose le plan de vol.
S'il n'a pas déposé de plan de vol et qu'il vole à vue, mais qu'il est équipé de la DSB, tu peux savoir où il est, mais pas où il va.
Voilà. Okay. Vous avez compris ce que Quentin vous a dit ? Moi, j'ai compris parce que je joue à Flight Sim.
Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et c'est bien expliqué par le jeune adolescent en disant « Je ne suis pas les déplacements d'Elon Musk, mais du jet d'Elon Musk. » Parce que tu vois, sinon, ça fait un peu « Je te stalk » et c'est un peu malsain.
Exactement. Mais enfin, le compte s'appelle quand même Elon Jet.
Oh oui, voilà. Effectivement. et bah, du coup, c'est marrant parce qu'on voyait à un moment donné tous les trajets débiles qu'il a fait, notamment dernièrement à San Francisco, San Francisco. Et Elon Musk, il n'a pas trop aimé que les gens se foutent de lui sur ses mini-trajets ouais. de jet. Donc du coup, il a un petit peu mis la pression au jeune adolescent en lui disant « Je te file 5000 balles et tu fermes ton compte Twitter. »
Et lui, il a
Elon
dit...
Elon Musk, 5000 euros, ouais. je vous laisse processer cette information. Le jeune adolescent a dit « Haha !» Si tu veux 50 000, je le fais, et un stage dans ta boîte. Ce à quoi Elon Musk n'a pas répondu. Je trouve ça vraiment très dommage.
Non, par contre, après, il a menacé d'acheter Twitter, histoire de régler le problème lui-même.
Tu crois que c'est pour ça, en fait ?
Bah oui.
Ah merde.
Ah bah je suis sûr que si Elon Musk prend le contrôle de Twitter, ce compte-là, c'est le premier qui disparaît. Hein. Ça, c'est...
Donc, oui, mais donc alors, faites-vous plaisir
sur ce. Il est en train de se retirer, là. Hein.
Oui, mais en tout cas, à un moment donné, c'était. Mm.
Donc voilà, je trouvais. Moi, je ne connaissais pas ce compte Twitter, ça m'a fait rire. Et. Cocorico, on a la même chose en France avec le compte Instagram L'avion de Bernard qui suit le jet de Bernard Arnault.
Est-ce qu'on a le type d'avion ? Est-ce que c'est un Falcon ?
Je pense. Alors, que c'est un Falcon. Jet privé F-GVMA. Est-ce que Quentin
Est-ce
peut
que
nous donner une information ?
Tu peux nous sortir la carte grise, s'il te plaît, Quentin ?
C'est une immatriculation.
Ah bah, écoute, c'est pas, nul, je ne sais pas ce que c'est.
Tu fais de l'avion ou quoi ?
F-GVMA.
C'est quoi ?
F-GVMA. Un jet privé. Donc du coup, c'est un compte Instagram.
On déteste la réussite.
Et c'est un compte Instagram qui, à chaque fois, poste une petite photo de la carte du monde ou du pays pour montrer les déplacements. Donc c'est assez intéressant parce qu'il fait beaucoup du Londres-Paris, Paris-Londres, Paris-Nice, Nice-Paris.
C'est un bombardier.
Puisqu'il a une petite maison, un petit manoir à Londres, pour information. Et il a fait dernièrement un Londres-Londres. Hein, pourquoi pas, un trajet de 10 minutes en jet pour, au lieu de 40 minutes en voiture.
On rappelle que Londres, c'est grand.
Il a fait un Paris-Tokyo sans s'arrêter, donc je pense qu'il ne doit pas avoir un petit jet. Hein,
c'est un bombardier BD-700 Global 7500, donc j'imagine que c'est un...
Vas-y, montre.
Il a fait un Osaka-Los Angeles...
Ah ouais, ouais Bernard, putain.
Ah oui, non, il est pas mal. Hein.
Est-ce que c'est possible si t'es, parce que quand même Bernard Arnault et Elon Musk là, ils me font pitié avec leur jet nul. Pourquoi ils achètent pas un A380 ?
Parce que ça consomme.
Mettez un micro, Quentin.
Parce que ça consomme.
C'est la première fois qu'on lui donne un micro.
Ouais, mais il fallait que j'arrive pour que
pour qu'on respecte le petit personnel.
Alors, du coup, voilà, je raccroche à de la data parce que alors, c'est marrant de pouvoir suivre les gens quand même.
Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que ce truc.
Attends, il y a de la friture derrière toi.
Il peut avoir de la 180 en personnel.
Sachez qu'il me semble que c'était pas Steven Seagal, mais il y avait un acteur américain qui avait un avion de ligne comme avion privé. Bref.
Bah, il y en a plein. Vous suivez pas les Real Housewives de Beverly Hills?
Voilà.
Non, mais pour la petite anecdote, suivez les Real Housewives de Beverly Hills, vous avez l'histoire de Erika Jane qui était mariée à cet avocat qui est l'avocat dans le film avec Julia Roberts qui
L'affaire Pélican.
Non, c'était la nana
Erin
Brockovich. Voilà, donc l'avocat d'Erin Brockovich existe dans la réalité et donc le film est tiré de cette histoire. Et donc cet avocat existe vraiment et est marié avec une des Real Housewives. Et il a un avion de ligne en jet.
Privé.
Pas en jet, mais en vrai. Ouais.
Alors, c'est une.
C'est un gros avion.
Et donc, en fait, moi, ce qui me surprend, c'est que, on va dire que la population, à peu près 100% de la population qui utilise des jets privés sont les riches.
Oui.
100%
des riches. Non, arrête, define riche.
100% des riches font les lois.
Ok.
Et je trouve ça incroyable que de nos jours, on ait encore un truc qui permette de traquer les riches, parce que c'est ni plus ni moins que ça. C'est-à-dire que l'information des plans de vol de la FDA ou de l'aviation civile ici...
Mais tu traques aussi les pauvres dans ce cas-là.
Oui, mais en fait, tu traques les pauvres dans un avion de ligne où il y a 500 personnes.
Oui.
Alors qu'un jet, bon, par définition, ça appartient à quelqu'un.
Ils vont acheter des jets furtifs.
Non, mais est-ce que c'est pas étonnant de se dire qu'aucun riche n'a essayé de faire du lobbying pour forcer, par exemple, l'aviation civile à dire... Les avions qui sont des avions privés n'ont pas à apparaître sur les sites.
Je suis sûr qu'en fait,
Ben non, déjà parce que les avions privés, c'est une notion qu'on a nous parce que voilà, on regarde ça d'ici. Mais un avion privé, ça veut tout et rien dire. Par exemple, les compagnies aériennes ne possèdent pas leurs avions. Elles appartiennent à des compagnies qui leur sous-louent. Donc, qu'est-ce que c'est des avions privés? Qu'est-ce que c'est un avion privé? Et en plus, t'as une histoire de je transmets mes coordonnées, etc. Ça concourt à la sécurité des vols, que transmet plein d'informations sur lui-même, l'avion. Et bah, du coup, tu vas pas dire oui, mais les riches, non.
Tu peux pas dire ça.
Non, mais que cette information soit disponible, que cette information soit partagée par tous les autres avions qui volent en même temps et par les contrôleurs aériens, etc.
Bah, du coup.
Du coup, si c'est public.
Bah oui, non, mais que cette information soit partagée par un mec qui est sur son iPad chez lui et qui dit tiens, j'ai envie de savoir où est Bernard Arnault, bah moi je trouve ça fou et que
ben
ça
non.
soit encore autorisé.
Et ben moi je trouve que c'est très bien parce ah non, que par exemple.
Bien. C'est très bien, ça me surprend que ça soit pas.
Par exemple.
Que ça soit pas fait tuer.
Pépé, mémé Lapin.
Ouais.
Les grands-parents de donc Pierre Lapin.
Ouais.
Aime beaucoup suivre, et ses autres grands-parents d'ailleurs aussi, suivre quand on part en vacances et pouvoir vérifier l'avion en vol, s'il est bien atterri. Si... Donc ça, c'est important qu'on puisse avoir les données publiques
oui,
de
non,
tous
mais
les avions.
En fait, pour les avions de ligne, c'est-à-dire les avions où il y a 150 personnes minimum, et où en fait c'est du service public.
Oui, mais par exemple, Air Force One, t'es obligé de savoir où il est.
Bah justement, Air Force
Alors,
One,
Air Force One je pense pas que t'es là...
Eh si. Bien si.
Ah ouais,
ouais.
Si, mais en fait, il peut aussi couper son transpondeur. Il peut aussi couper son transpondeur si... Pour,
et ben, voilà. Pourquoi il peut pas couper son transpondeur, Bernard Arnault?
Bah parce que c'est illégal.
Bah, je sais pas,
parce
moi,
que si
c'est
tu es...
Bernard Arnault.
En fait, je t'explique un truc. L'avion, quoi qu'il arrive, les radars le détectent.
Ouais.
Le transpondeur, en fait, c'est le petit « Hello, my name is » que l'avion dit « Salut, c'est moi ». Donc, si jamais t'as un avion que les radars ont détecté... Et où ils disent, tiens, c'est marrant, je sais pas comment il s'appelle.
C'est
très
chaud.
Rapidement, t'as deux rafales
ouais,
sur le
c'est
cul.
Ça.
Et
c'est...
tu risques de te faire
bonjour
descendre.
Bonjour, monsieur police nationale. Venez garer le véhicule, a fortiori.
Voilà, donc,
il faudrait montrer les papiers.
En fait, moi, je trouve ça évidemment très, très bien qu'on puisse suivre ça. Et je suis, tu vois, de la même manière qu'on est capable de tordre les lois sur le climat pour dire, bon, Ferrari, t'as quand même le droit de polluer tant que t'en fais pas mille. Je trouve ça incroyable que tous les gens qui prennent des jets privés n'aient pas fait pression sur les autorités pour dire, s'il vous plaît, un peu de vie privée. Puisque le jet est privé,
mais
autant
regarde.
Que la vie le soit aussi.
Alors, je rebondis habilement. Encore une fois sur ce que tu dis, c'est-à-dire que le petit ado là qui suit Elon Musk, bah depuis le début de la guerre en Ukraine, il a ouvert de nouveaux comptes sur un les avions des oligarques russes
ah oui,
et le deuxième
ça.
Sur l'avion de Vladimir Poutine. Tu vois, il y a en plus un truc politique
l'amour
derrière.
L'amour du risque un peu, parce que tu
un
fais ça avec
Vladimir
Poutine. Je pense que l'avion, il va le tracer. Il va faire... C'est bizarre, il se dirige
et donc,
vers ma maison.
Mes sources m'indiquent qu'un lobbying discret se met en place pour faire en sorte que cette pratique d'écoute des jets privés disparaisse.
Voilà, tu vois, c'est ça. Bien en sûr. Fait, c'était évident que
impossible,
ça.
Impossible.
Bah, tu vas voir. Je rappelle que
Darmanin est encore au gouvernement.
Par exemple, aux États-Unis, quand tu as de l'argent, tout est absolument possible. Donc,
impossible.
Mais parce qu'il déteste pas la réussite.
Sachant que les lois aériennes sont quand même fortement influencées par la FDA. Non,
la
FAA, parce que la FDA c'est pour la nourriture et les médicaments. Par la FAA, je pense. Que ça va finir par arriver. Il suffit juste qu'il y ait encore un petit peu de tracking qui soit apparenté à du harcèlement.
Eh bah ben écoute,
oh, ça va, c'est pas du harcèlement.
Rendez-vous est pris.
Rendez-vous est pris 2023.
On verra en 2023 comment ça aura évolué.
Quand
moi je pense
aura
que
eu
ça.
Son troisième Covid.
Moi je pense que ça ne tiendra pas.
D'accord.
Petite précision du coup sur le compte l'avion de Bernard.
Oui.
Il y a entrecoupé de chaque trajet des petites informations de la personne derrière le site. Un petit peu écolo,
orienté
puisque il va voilà un peu orienté politiquement, puisqu'on t'explique aussi les tonnes
de kérosène
et surtout les tonnes de CO2 rejetées
bah,
à chaque fois.
Bah oui.
Donc on sait que alors il dit que pour limiter le réchauffement climatique, l'objectif par personne c'est 2 tonnes par an. Aujourd'hui, actuellement en France, la moyenne c'est 13 ou 14, je crois, par personne.
Ouais.
Et donc par exemple un vol Paris-Milan c'est 3 tonnes.
Voilà.
Donc Bernard Arnault, en gros, en l'espace de un mois de trajet,
il te fait déjà.
C'est pour ça que la clause Ferrari, c'est un scandale sur les voitures thermiques, parce qu'en fait, on va saigner aux quatre veines pour que ce soit vivable pour nous, et en fait, le 0,1%, ils vont être là, YOLO.
Alors je vous rappelle cette expression qui existe depuis que le monde est monde, qui s'appelle Happy Few.
Oui.
Ouais. Et bah voilà, donc encore une fois.
Et donc deux informations qui sont rigolotes. Donc voilà, effectivement, pour le il fait des récaps du mois de mai, par exemple, c'était 176 tonnes de CO2 rejetées.
Ouais.
Et donc il y a aussi l'information qui est de nombreux vols de jets privés se font à vide, ce qui est un chiffre donné par le Figaro.
Oui, bien sûr. Bah,
40%.
Tout comme on avait des avions de ligne qui volaient pour garder leur créneau sur les aéroports, qui étaient obligés de voler à vide. Hein, Quentin? Voilà.
Oui.
Oui, parce que le système de réservation des slots fait que si tu veux garder ton slot, il faut que tu occupes
Que...
C'est comme ça.
Alors justement, ça m'amène à deux questions.
Vas-y.
Ça se fait beaucoup en Australie, c'est qu'il y a beaucoup de touristes qui louent des vannes et qui font toute la Golden Coast,
oui.
Et qui repartent du haut et reprennent un avion. Ce qui fait qu'ils se trouvent plein de vannes en haut. Et donc du coup, il y a beaucoup d'agences qui te proposent de redescendre les vannes gratuitement, mais ouais. T'as juste un van gratos du coup. Donc ça se fait pas mal quand t'as pas de thunes, c'est trop bien. Et je me dis, pourquoi ne pas faire la même chose ? Pourquoi pas tirer au sort des gens en disant, ah, alors faut qu'on ramène le jet à Paris, est-ce que vous voulez faire un petit coup
non,
de jet ?
Non, mais là c'est pas ramener le jet à Paris.
Ah, c'est faire des tours
C'est faire, là c'est dire... En fait, tu as le créneau du lundi midi pour aller de Paris à New York à 12h02. Si tu veux garder ce créneau, il faut, que ton vol il existe.
Il faut que parce que c'est
même si t'as pas de clients,
80, faut que t'en
aies 80%.
Oui, donc
c'est pour ça que je te dis autant mettre des gens dedans.
C'est ça. Ah oui, parce que et ça c'est.
Je crois qu'en période Covid ils ont voulu redescendre le truc, mais c'est enfin.
Mais non, mais parce que ce truc là. En fait, ce truc là.
Mais donc ça va bien dans le sens de ce que je dis, c'est que si de toute façon le trajet doit se faire, autant qu'il se fasse avec des gens dedans. Donc il pourrait très bien dire, tenez,
oui, en fait,
les gueux du peuple, prenez mes places
mais
à vide.
Ça existe. Pourquoi est-ce que tu crois que de temps en temps, c'est bizarre, chez Norvégienne, j'avais des vols à 400 balles pour aller à l'autre bout de la Terre ? C'est précisément ça.
Ça s'appelle le yield, ouais.
Oui, mais sauf que là, moi, je voudrais le faire dans des jets privés.
Ah mais non, mais ça, c'est encore autre chose.
Et faire des TikTok dedans
pour
faire croire que je suis Kim.
Alors que la solution, c'est de cloner plein de mini Tom Cruise qui vont aller faire leurs courses à tous les francs prix du coin.
Je pense qu'on a fini avec cette chronique. Quand Victor commence à faire de la fantasy. Alors, est-ce qu'on a encore un truc sur la tech ? Ouais, t'avais des trucs, toi ?
Pas vraiment.
D'accord, parce que moi, j'en ai une. Et une belle.
Ah, mais moi, j'en ai plein d'autres, si vous voulez.
Ah, mais attends, est-ce qu'on peut entrecouper d'une dernière news et après,
oui.
On drift à
vas-y,
l'infini ?
Vas-y, let's go, la news. La vérité est au bout du tunnel. Suivez la lumière.
Tout à fait. J'ai deux news qui nous viennent d'Allemagne, puisque j'en ai streamé une en direct, là. Il y a aux deux opposés du spectre. L'Allemagne a lancé, il y a quelques mois, pour contrer l'inflation et pour inciter les gens à ne plus prendre leur voiture, le ticket de transport ferroviaire à 9 euros par mois.
Ah oui.
Bravo l'Allemagne.
Bravo l'Allemagne.
Ça rattrapera pas le fait que vous êtes des enculés par rapport à l'Ukraine, mais bravo, bravo l'Allemagne néanmoins.
Ouais.
Non, mais j'ai pas d'amis en Allemagne, donc... On peut tracer.
Tu vas froisser nos auditeurs à dire des grossièretés.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pardon, les gens qui n'aiment pas le terme enculé, mais j'avais pas d'autres qualificatifs pour l'Allemagne que.
Et du coup, ils ont fait ça. Donc, ça s'est heurté à plusieurs choses, parce qu'il y a plein d'articles du Monde sur le sujet. J'ai plusieurs fois recommandé les articles Transport du Monde par Eric Bézia, mais allez-y, c'est très très bien. Ils ont un gros problème, c'est que le ferroviaire, ça a été complètement abandonné à partir des années 90, mais encore plus que chez nous.
Ça n'avait pas été libéralisé. Donc,
oui, et donc là, ils ont des gros problèmes parce que tout le monde pousse au portillon pour remoderniser le réseau ferré, sauf qu'il y a beaucoup beaucoup de travaux en même temps, et que là, en plus, il y a beaucoup de travaux avec des trains annulés. Enfin, à cause des travaux et l'organisation n'est pas forcément dimensionnée pour faire en sorte qu'il y ait autant de chantiers.
Voilà,
et là, il y a plein de monde dans les trains, donc les gens s'en rendent compte. Les gens s'en rendent compte, parce qu'avant, quand c'était des trains vides et qu'il y a des problèmes, personne ne s'en rend compte, sauf que là, oui. Avec les tickets à 9 euros...
Les gens se rendent compte que leur réseau est pas ouf.
Voilà, et donc du coup...
Je pensais que ça marchait bien, la Deutsche Bahn. On m'a... Non, ça marche pas.
Non, ça marche pas bien.
Ils ont un beau logo.
Vraiment,
j'aime
ouais.
bien leur logo.
Et du coup, il y a une autre entreprise allemande qui a lancé un autre forfait, mais c'est juste 2990 euros de plus que 9 euros. Donc c'est pour 2899 euros, vous pouvez faire en sorte de ne pas prendre le train, puisque c'est le programme Porsche Drive Flex à Berlin et à Hambourg, où tu peux changer de Porsche tous les jours.
Oh wow.
Pour 2899 euros par mois, tu peux changer de modèle de façon.
Est-ce que c'est
quotidienne.
Donné, je m'en rends pas compte du coup.
Combien ça coûte une Porsche, une grosse Porsche en leasing, genre un Taycan ?
J'en ai absolument aucune idée.
Bah pourtant t'as une Porsche, tu devrais savoir.
Une vieille.
Merde. Oui, ben bah alors. Non mais c'est quoi une Porsche ? C'est 200
000
balles.
Rien à voir.
Je pense qu'en leasing une Porsche, genre neuve et un gros modèle, ça doit être autour des 1500 balles par mois.
Ouais.
Donc du coup, tu prendrais ce petit forfait Porsche à volonté ?
Je me dis si t'as vraiment.
Déjà, si t'as 1500 balles par mois,
si
t'as
déjà,
2000,
voilà,
t'as 3000 balles.
Si déjà t'as 1500 balles de leasing, t'es pas à ça près. Et je me dis si en plus c'est pour te faire kiffer parce que tu vas forcément prendre les plus gros modèles, les plus énervés, électriques.
Bien sûr.
Voilà, comme le Taycan que j'aime bien. Très bon dans Forza Horizon, c'est le seul moyen de conduire cette voiture que j'ai trouvé.
le modèle break, là, le Sport Turismo, il est incroyable.
Ah, ils sont super beaux. Effectivement, je pense que ça peut être intéressant. Ah ouais. C'est vraiment un truc d'allemand, parce qu'on rappelle que là-bas, sur certaines autoroutes, t'as le droit aussi de rouler en illimité.
Tout à fait.
Et de dépasser le 88 miles à l'heure.
C'est à partir de 1216 euros.
Ah bah voilà.
Mais enfin, c'est le double quand même. Hein.
Mais ça, non, 1216 euros, tu dois. De quoi
pour c'est le double pour changer tous les jours.
Non, ouais, mais pour Porsche, avoir c'est 1216 euros.
Non, à partir de 1216 euros pour la Taycan. J'ai pas regardé.
Ah ouais, c'est pas mal. Ah, c'est moins cher que ce que je pensais.
Bah, go, fais-toi plaisir.
Allons-y.
Allons-y.
Allons-y. Ok.
Voici mon code partenaire.
Je fais passer ça en note de frais. Non, mais en fait, le train à 9 euros, je me dis. Alors que nous, on a des trains à 199 euros et qui, en plus, tu regardes le site deux secondes plus tard, ça a déjà augmenté. Je me dis, ça serait peut-être bien qu'on s'inspire de ça parce qu'on on a un réseau ferré qui est quand même sympathique. Il serait peut-être temps
alors,
de.
9 euros, à mon avis, non, mais un truc qui se rapprocherait
non,
de l'abonnement
vois,
général
avec les
Ouigo, ouais, carrément.
Avec les Ouigo et tout, on commence à se dire tiens, en fait, tu peux faire des longues distances sans payer trop trop cher.
Ouais.
Pourquoi est-ce que le Ouigo ne serait pas la norme du TGV en France ? De quoi ? Bah ça va.
Parce qu'on a besoin du Wi-Fi, tout
attends,
simplement.
Attends, on n'est pas si mal installé que ça dans un Ouigo.
Je suis extrêmement déçu qu'ils aient pas appelé ça le Wi-Fi. Genre.
Oui, mais sauf qu'il n'y a pas de Wi-Fi dans le Ouigo.
Je sais pas, mais
il y en a dans l'in. Oui, mais il y en a dans l'in-Wi.
Oui, il y en a dans l'in Wi-Fi.
Ils auraient dû in Wi-Fi et il y avait le Wi et tout.
Il y avait le in aussi, genre le Wi-Fi est à l'intérieur. Ouais, non, franchement.
Il y avait un truc à faire.
Non, mais moi, en fait, je ne comprends pas parce que oui, Ouigo, nanani, nanana, ok, ça part de Massy Palaiseau ou de Ville Paris ou je sais pas où. Bon.
Déjà, maintenant, c'est dans les gares parisiennes centrales.
Mais oui, mais ça permet même de redécouvrir les villes de banlieue, ce qui est quand même un bon point. Et ensuite, honnêtement.
Surtout celle
moi,
de
je suis allé
à Caen, le kebab du poulailler.
Mais bien sûr, mais franchement, moi, le jour où Maison Alfort devient une gare Ouigo.
Attends, il y a Massipal, pas loin.
Let's Ouigo. Bah, pas loin, c'est quand même pas exactement à côté. C'est pas loin, certes.
Tout ce qui est de au-delà du périph, tu sais, moi, ça se blende dans le flou.
C'est le problème des provinciaux, ça.
Oui,
dès qu'ils arrivent à Paris, ils sont plus parisiens
que les Parisiens. J'avais été opéré sur Marne.
C'est vrai. Non, mais pourquoi est-ce que la formule basique ne serait pas le Ouigo ? Pourquoi est-ce que,
oui,
justement, plutôt que d'avoir
mais
le Ouigo
ça,
à la
ça, c'est bien une réflexion de gauchiste. Ça. Tu veux tout niveler par le bas.
Mais pas du tout, c'est alors, la même chose. C'est les mêmes trains. Et ils roulent sur les mêmes rails.
C'est vrai.
Avec le même personnel.
Il
n'y
a
là,
pas de voiture-bar.
Il n'y a juste pas de wagon-bar.
Il n'y a pas de wagon-bar.
Il n'y a pas d'électricité, pas de
si,
Wi-Fi. Quoi.
Si le fait de ne pas avoir de wagon-bar, ça permet de faire passer mon aller-retour Paris-Marseille de 180 balles à 49 euros, bah let's go sans le bar.
C'est vrai.
Parce que c'est littéralement la seule raison. Alors,
ça
oui, si t'as un petit gabarit de merde pour les bagages, pour éviter que t'arrives avec une malle de... Voilà, ok. Mais en fait, on n'est pas si mal installé que
non,
ça.
Non, 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 on n'est pas si mal installé que ça. Non, non, mais pour revenir sur une discussion plus sérieuse, l'abonnement général en Suisse, qui est en gros le forfait que tu payes à l'année pour avoir tout illimité, ça pourrait être un truc généralisable en France. Ça, d'ailleurs, ça s'appelle une carte fréquence, mais c'est moins sexy. Mais
c'est
oui, ça pourrait être. Oui, c'est plus cher. Ça pourrait être un truc intéressant. Et surtout, ça pourrait être. Enfin, tu vois que la SNCF, ils exploitent quand même beaucoup de lignes parisiennes. Et avec un peu de bonne volonté, on pourrait faire en sorte d'avoir un abonnement qui marche. Si t'arrives à Marseille, tu payes un petit extra et.
Déjà, ça serait bien qu'en sortant du métro, tu puisses prendre un tram.
Au hasard.
Par exemple.
Hein, donc, bon, voilà. Enfin, je veux dire, les trucs sont pas encore faits à Paris, mais.
Bah, écoute, moi, je propose que tu te présentes à la place de Valérie Pécresse.
Ah
pour gérer la RATP.
Île-de-France Mobilité, les amis.
Je vous rappelle qu'on fait cette émission, mais que c'est un sujet absolument pas porteur, parce qu'on n'a même pas de ministre.
Ah oui, c'est vrai, on n'a même pas parlé de ça.
On n'a même pas parlé de ça, parce qu'en remaniement, on a Madame Elisabeth Borne, aka Madame Transport RATP, à la tête du gouvernement.
Elle s'appelle Borne, hein, quand même.
Elle s'appelle Borne, pour le mille Borne. Et on n'a pas de ministre des Transports.
Ouais, c'est un peu triste.
Mais si, on a un délégué.
Non,
oui, mais
il n'y a même pas de délégué.
Mais si.
C'est celui qui s'occupe de je sais pas quoi qui est aussi transport.
C'est pas une meuf.
Si, c'est une meuf. Voilà. Mais c'est mon chalin, non ? Pas du tout.
Ah non, elle c'est travail ou
ah,
un truc
pardon,
comme ça.
Je confonds.
Parce que tu vois, ça a même laissé l'autre crevure de Jebari là qui s'est barré et qui a dit oui, bah j'ai plié le game, personne peut me remplacer. J'ai envie de le claquer.
Mais claque-le s'il te plaît.
Mais en fait
pas de violence.
Moi j'ai pas peur d'appeler un chat un chat, Jean-Baptiste Djebari, je trouve que c'était un gigantesque fils de timpe.
voilà. Avec tout le respect que tu as pour les TDS.
Avec respect pour les TDS en obstant. je tenais aujourd'hui spécifiquement aujourd'hui, vas-y, à remercier une personne.
Okay. Vas-y.
Cette personne s'appelle Catherine Lacourcelle. Catherine, sache que je t'aime.
Catoche.
Pourquoi Catherine, je t'aime ? Parce qu'aujourd'hui, Catherine Lacourcelle, tu m'as envoyé un mail qui dit « Portail des démarches d'Île-de-France Mobilité, votre demande, notification favorable. » Elle me dit « Bonjour Monsieur Daz, en date du 31 mai 2022, vous avez déposé une demande en ligne relative à l'aide à l'achat d'un vélo enregistré sous la référence blabla. Nous avons le plaisir de vous annoncer que votre demande de financement a reçu un avis favorable. Le montant accordé, avec une faute, et eux, elle a dit le montant accordé,
aïe,
et eux, Catherine, c'est pas sérieux, et de 500 euros. Je... »
Ah, ben bah oui, parce que t'as rejoint le clan des cyclotouristos de l'île.
Électricos, j'ai donc un vélo électrique et donc je me suis empressé de faire la demande car si vous habitez à Paris et si vous habitez en Île-de-France,
il y en a partout
avez...
en France de,
oui,
des aides.
Il y a plein de mairies qui peuvent se cumuler avec la région.
Oui.
Donc moi à Maison Alfort, il n'y avait pas d'aide au niveau local. Par contre, j'ai
Madame
l'aide
Pécresse
de l'Île-de-France
à rincer,
qui permet de te rembourser jusqu'à
500
euros.
La plus grande injustice selon moi, puisque
les vélos musculaires sont
pas
remboursés.
Parce que les vélos musculaires, il n'y a rien.
Et oui, mais c'est pour engrainer les gens à lâcher leur caisse. Et tu sais qu'il
oui,
faut travailler par graduation,
oui,
c'est-à-dire que voilà.
Oui, mais ça, tu vois, ils auraient pu mettre 100 balles pour les vélos musculaires, quoi, tu vois.
C'est vrai.
C'est vrai. Mais
je crois
qu'il y a
un effort.
Parce qu'il y a 500 euros pour les électriques et je crois qu'il y a 600 euros
pour les
cargos.
Ouais.
Ah.
Alors, ça me permet d'échanger deux trucs. On reviendra sur ton vélo parce que je le kiffe et qu'on va parler de technologie aussi.
Ouais.
Tu parlais de, j'ai du petit porteur récemment qui te faisait rêver. J'en ai croisé un. C'est ultra canon.
Mais oui,
comme vélo.
C'est trop bien.
Avec les planches en bois à l'arrière, poser les pieds.
Les petits porteurs, c'est des mini cargos.
C'est des cargos arrière.
Avec des... Mais non, mais c'est avant et arrière. T'as un petit panier devant et tout, avec des toutes petites roues. Et j'ai croisé une.
Il y en avait un ce matin, tout à l'heure là, devant
mais
le.
Mais c'est surtout, c'est extrêmement modulable. Tu mets ce que tu veux. Tu peux mettre une selle pour enfants, tu peux mettre.
J'ai croisé une femme qui roulait avec ça dans la rue. Et en fait, le truc, j'ai spoté le vélo du coin de l'œil parce qu'elle avoiné sur la piste cyclable à toute berzingue.
25 km/h.
Et j'étais là genre en mode c'est quoi ce truc, c'est trop stylé. Et je me suis arrêté, je lui dis mais c'est quoi votre machin là. Elle me dit c'est le petit porteur et tout. Je suis en mode trop cool.
Il y en a beaucoup à Paris.
Et
c'est très beau.
Et avec le petit porteur électrique, t'as 600 balles d'aide. Le truc coûte 2200 euros. Donc pour 1600 euros, t'as un truc qui est fabriqué
en France.
En France.
Ah, je savais pas que c'était fabriqué,
c'est
en,
fabriqué
sourcé,
en France.
C'est sourcé ailleurs, mais bon.
Bah, le moteur est pas en France.
Voilà,
mais
il est plutôt même
en
Chine.
En
mais ok, let's go. Mais c'est un produit
donc,
français.
Allez, encore un truc qu'on s'est pas fait payer pour en dire du bien, mais c'est top.
Le problème de ces vélos, je vais vous dire ce que c'est. C'est en
dit-il
fait,
en se levant.
Oui, parce que cette chaise, j'ai peur de la péter, donc je vais m'allonger par terre.
Mais tiens, prends un petit coussin
non,
pour
non,
ton
pas
popotin.
La peine, pas la peine, j'ai déjà un popotin, il sert à ça. Le problème de ces vélos, je vais vous dire ce que c'est que en fait, ça se marie quand même relativement mal avec la vie citadine.
Alors,
c'est des vélos qui doivent faire bien 25 kilos au bas mot.
Non, pas les petits porteurs, ils sont tout petits. Genre
ouais,
vraiment,
mais
c'est
ils sont
un
tout
long,
par contre.
Modèle.
Bah non, non, ils sont pas plus longs.
Attends, celui de Edouard Lee, je te défonce le cul, excuse-moi.
Il est pas très long.
Mais quand même, c'est deux enfants, plus sa femme, plus sa maison.
Ouais.
Sur un vélo.
Mais c'est pas si long que ça.
Ok. Non. Parce que moi, j'ai quand même. Parce qu'on appelle ça des long tail. C'est des vélos long tail.
Oui, mais
non, mais les long tail, le petit porteur, c'est vraiment pas ça. Genre, je vais te montrer, ça ressemble à ça.
Tu vois, par rapport à.
Ah, mais non, mais attends, c'est pas celui d'Edouard Lee, je te défonce le cul.
Si, si. C'est celui-là.
Ah non.
Mais sauf qu'en fait, vu que c'est modulable, tu mets ce que tu veux en fait.
Parce
comme
qu'il y en a avec carrément des planches de bois, genre on dirait des étagères IKEA qui sont par terre pour mettre tes pieds, tu vois.
Oui,
mais
pour mettre les enfants.
Ouais.
Mais c'est trop bien.
En fait, le problème.
Est-ce qu'on
de
pourrait se faire sponsor par le petit porteur pour en avoir
franchement,
en test
si,
pendant 6
si
ans
y a des gens qui connaissent le petit porteur, envoyez
mais
la
en fait, moi, je connais quelqu'un au petit porteur, je suis débile.
Bah voilà.
Bah voilà.
Si tu faisais un effort. Donc en fait, effectivement, pour le petit porteur, tu peux récupérer 600 balles, c'est très bien. Moi, je trouve que ça reste quand même des vélos qui sont difficiles à utiliser quand t'es en ville, notamment dans les immeubles parisiens où il n'y a pas forcément un ascenseur ni de parking souterrain.
Et ben bah, là,
où
là,
est-ce que tu gardes ton
j'embraye,
petit porteur
j'embraye sur une vidéo du Parisien.
Sur le vol de vélo.
Non, il y a le journaliste Yann Forêt qui a un bro du polygone.
Ah ben bah voilà, je le disais aussi. Toujours cet entre-soi parisien,
ouais.
Bien sûr.
Non, mais ils ont fait une vidéo sur les galères du stationnement de vélo à Paris et il y a un type qui a fondé une start-up.
Il fallait que ça arrive.
Qui rachète des places de parking dans les sous-sols d'immeubles, si tu veux, et qui les transforme, qui les repeigne et tout, et ils transforment une place de parking en 12 places de vélo. Genre, ils les clôturent, machin.
Et comment tu rentres dedans ? Il faut un...
Et bah, t'as un badge, alors je me souviens plus du nom de sa boîte, mais t'as un truc où t'as un abonnement, tu payes entre, je crois, c'est entre 15 et 20 balles par mois, et t'as accès
c'est
à.
C'est pas
un,
donné.
Bah, ça va, franchement.
Bah, ouais, si. Un parking, ouais, je sais pas.
Tu peux te faire rembourser parking. La moitié en plus par ton employeur. Parce que
le
c'est
parking
des bah, c'est, en fait, ça, c'est considéré comme forfait, ah ouais, truc de mobilité.
Mais il y a aussi, alors je sais pas s'il y en a que à Paris, ah, mais j'ai l'impression qu'il y en a dans d'autres villes, des places de vélo sécurisées en ville. Vous avez vu ces grosses trucs qui ressemblent
les
à...
Bah, qui remplacent qui sont sur des places de parking extérieures.
C'est ça. Hein. Donc je me suis un peu renseignée, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de places et tu es sur liste d'attente, en fait.
Ah, parce que ce truc-là,
là, à Paris.
Oui, bien sûr.
Ah, je croyais que c'était un truc genre
me
gare là.
Non, c'était ton garage en
c'est
fait.
C'est comme si c'était ton garage. Mais par contre, ce truc là, de. Alors, je retrouverai le nom de sa startup, je mettrai ça dans les sources sur le Discord, rejoignez-nous. Il y avait quelque chose comme plus de 10 000 ou 20 000 places à Paris déjà, tu vois, sur ce truc là.
Ah, c'est quand même. C'est toutes les places de parking qui servent à rien.
Voilà, et je trouvais ça très chouette. Et en même temps, si ça permet de lancer une petite réflexion sur comment on peut faire. Du parking vélo un peu plus propre parce que
bah, tout le monde le gare à l'arrache. Moi,
ouais,
franchement,
c'est crade, hein, franchement.
Là, je suis allé au petit Cambodge, c'est le why. C'est le why. Il y a des vélos partout.
Mais tu sais que moi j'étais à Strasbourg la semaine dernière, ouais. Et Strasbourg
la ville, hein, pas Strasbourg.
Non, Strasbourg la ville, qui est une des villes les plus cyclables de France avec Grenoble. Tu sors sur le parvis de la gare, t'as mais tétrachier de trucs pour garer tes vélos. Il y en a partout, il y a de l'infrastructure cyclable. Partout, le centre-ville, ouais. T'as les mecs de la... Alors par contre, les mecs de la Poste, ils sont aussi guedins avec leur triporteur vélo qu'avec les kangous. Ça bombarde.
Ah bah
non,
les vélos électriques
le
de la Poste, attention. Hein.
C'est
des mobilettes. Hein. Au bout d'un moment, ça. Il va falloir accepter le retour de ce terme.
Mobilette.
Il y a des vélos qui sont juste des cyclomoteurs, en fait.
Et mais du coup, c'était hyper agréable, même si ça avoine. Mais en fait, tu sens que les gens, ils sont pas là pour le tourisme. Quoi. Ils ont des vélos, ils ont des brels à 10 balles, mais genre, c'est un moyen de déplacement. Ouais, et vas-y, casse-toi, tu vois.
Ouais, bien sûr. Le vélo, on rappelle, hein, moi, je suis un mec pragmatique. Hein. Si je suis en vélo dans Paris aujourd'hui, c'est parce que
c'est quand même vachement
plus rapide que la voiture.
Bah bien sûr.
Donc à partir de là.
Bon, après, j'avais un tout petit peu de mal à trouver des avantages au vélo hier sous 10 millions de litres de pluie.
Ah ouais, putain, je me suis fait tellement
rincé la gueule. Les gens qui me suivent sur Instagram ont certainement vu cette story où en fait j'étais en train de faire du jet ski parce que je rentrais à vélo sous un orage. Et en fait, l'eau était chaude, alors du coup j'étais bien.
Le pédaling.
C'était du pur pédalo. Mais non, mais moi j'ai bien aimé. Hein. Je suis rentré, bon évidemment tout est parti à la machine et moi je suis parti dans la baignoire. Mais
pareil.
Mais franchement, c'est. Tu sais, la pluie est chaude.
C'est vrai.
C'est pas comme les pluies d'hiver où vraiment t'as froid, t'es frais dans les pieds, tu te dis pourquoi.
Non, en vrai,
demain
moi,
j'achète une Mercedes, j'en ai rien à foutre, tu vois.
Non, mais c'est surtout que ça allait parce qu'on rentrait chez nous. Mais imagine, t'arrives au bureau dans cet état, c'est compliqué.
Bah alors moi, j'ai fait ça. C'était mercredi, oui, où ça a bien douché.
Mercredi soir, moi j'ai.
Bah donc c'était hier. Je suis parti avec un jean de rechange parce que je suis arrivé au bureau, je me suis changé.
Ah, il pleuvait le matin. Parce que moi c'est le soir quand on est parti qu'il pleuvait.
Non,
beaucoup.
Mais toi t'es un oiseau de nuit maintenant.
Oui, c'est vrai. Je me suis arrêté sous un pont avec l'âme, justement. Je lui ai dit, je pense qu'on va attendre. Il m'a dit, ouais, mais ça risque de durer.
Bah moi
non,
c'était
il y a du vent, c'est de l'orage.
C'était le ride du mercredi. Et le ride du mercredi, on a fait tout au sec. On est arrivé, genre, le retour au bar. Genre, on est passé. Dans le 13e, la côté d'Alésia, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui m'avait jeté un seau d'eau dans la tronche.
Ah ouais,
genre vraiment, il y a eu un mur de flotte. Je me suis détesté. Mais
moi, j'ai encore des trucs de tech à raconter. Hein. Je sais pas
si
on continue.
On peut sur son vélo parce que tu peux dire ce que t'as acheté comme vélo.
Alors j'ai acheté un vélo électrique. Alors ce qui a guidé ma réflexion.
Est-ce qu'il ne faudrait pas un petit jingle pour indiquer aux gens qu'on change de sujet.
Allez, on reste dans la tech. On reste dans la tech, mais effectivement, quand mon skate électrique m'a fait faux bond, c'est-à-dire qu'il a failli me tuer globalement, donc l'année dernière, j'ai décidé d'utiliser le vélo que mon père m'avait filé et qui servait à rien, disons-le. Et je me suis dit, tiens, je vais l'utiliser. Alors, c'était un petit vélo Trek. Trek, c'est une bonne marque de vélo, puisque c'est, je crois, la marque de ton bordel à 4000 balles, là.
C'est tout à fait ça.
Voilà, donc c'était un petit vélo Trek. J'ai fait genre 250 km et je me suis dit, bah, j'aime bien ça. Je pense qu'il est temps. Pour la première fois de ma vie, d'investir dans un vrai vélo. Alors, je suis parti sur un Triban.
T'as vraiment fait le parcours des mecs du Discord.
Oui.
Nous, on a.
C'est-à-dire que quand j'ai posté mon premier vélo, les mecs du Discord m'ont dit t'inquiète, dans un an, tu vas acheter un vélo à 2000 balles. Et j'avais dit haha, jamais de la vie. J'ai acheté un vélo, un Triban RC500 à 650 balles, qui était objectivement la somme la plus importante que j'avais jamais mis dans un vélo de ma vie. Je me suis dit, celui-là, il va m'accompagner jusqu'à la retraite. Et en fait, j'ai fait 9 mois avec. Et cette année...
Mais c'est le vrai bon parcours, parce que toi, au lieu d'acheter un vélo à 12 000 euros
ouais.
Et qui te convient pas, t'as fait petit à petit tes
ouais,
trucs, t'as vérifié ton cas d'usage, et ensuite t'as affiné, Et t'as tout revendu au fur et à mesure.
Exactement, j'ai jaugé mes usages et j'ai revendu tous les vélos que je n'utilisais plus.
C'est un homme sage.
Et je suis arrivé en fait, le Triban m'allait très bien, mais je me disais, j'aimerais bien aussi avoir un vélo électrique pour pouvoir aller rapidement dans les rendez-vous à Paris sans arriver en suie intense.
Oui.
Et j'ai jaugé le truc, je me suis dit, tiens, je vais m'acheter un Cowboy ou je vais m'acheter ce genre de truc, genre un Vendemouf. Alors, non, pas les Vendemouf parce que.
Oh, arrête.
On peut pas enlever la batterie, donc c'est obligé de remonter le vélo pour le charger et ça fait chier.
Mais si t'avais un local à vélo avec ascenseur, est-ce que t'aurais pris un Vendemouf?
Bah, j'ai une maison avec ascenseur, moi, mais j'ai pas pris de Vendemouf. Parce que j'ai pas de prise électrique dans mon local vélo.
Ah, bah voilà, si t'avais une prise électrique dans ton local à vélo.
Pourquoi pas. Voilà. En fait, je jaugeais le truc et je me disais, c'est un peu con quand même d'avoir un vélo musculaire pour les sorties balades sportives. Et un vélo électrique que je dois utiliser que pour le transport, j'aurais vraiment l'impression de faire du gâchis.
Oui.
Donc je me suis dit, il doit bien y avoir. Et ça, c'est la partie que moi j'aime bien personnellement, c'est quand tu analyses le marché. Je me suis dit, il doit bien exister un vélo qui fait les deux.
Et oui.
C'est-à-dire qui fait aussi bien du musculaire que de l'électrique en fonction des besoins. Et j'ai trouvé ce vélo. Alors, j'ai trouvé ce type de moteur.
Voilà. Ouais.
La technologie, c'est les moteurs d'une boîte allemande qui s'appelle Fazua, qui consiste en fait à mettre non pas le moteur dans le pédalier ou dans la roue arrière, mais dans le tube oblique du vélo.
Donc dans le cadre directement.
Dans le cadre, ouais. Directement, voilà. Avec, ils appellent ça le drive pack, parce qu'il y a le moteur et la batterie qui tiennent dans un genre de tube qui fait 3 kg et que tu peux plugger dans ton vélo. Et en fait, le truc particulier avec ce moteur, c'est qu'il n'y a pas de friction, il n'y a pas de traînée de la part du moteur. Parce que quand vous êtes dans un vélo électrique, il vous emmène à 25 km/h.
Ouais.
Après... C'est toi et tes jambes qui te démerdaient.
Oui, mais alors d'accord, attendez, moi j'ai une question parce que j'ai pas de vélo électrique et je comprends rien à la tech. C'est-à-dire que si je décide de pas.
En fait, actuellement
le Vendemouf par exemple, tu peux pas dire je veux juste pédaler.
Si, mais tu vas le payer.
C'est ça. Parce que vu que je prends l'exemple du Vendemouf,
le moteur est dans la roue arrière.
Dans la roue avant.
Dans la roue avant.
Dans la roue avant. Donc t'as tout le poids que tu traînes dans la roue avant. Donc en gros, que tu dois entraîner. Et en plus, tant qu'il n'y a pas de courant électrique dedans, en fait, toute la friction.
Le moteur est
emmené, en fait, c'est des
freins moteur, mais pas loin quand même.
Voilà.
Ah oui. C'est bien pour faire du sport.
Oui, mais là, ce qui est vachement bien, c'est que si tu veux faire du sport loin sans vraiment trop te crever,
ouais.
Toi, ton truc, ce qui est cool, c'est que tu démontes batterie moteur et le machin.
Ah, tu dois démonter ?
Non.
Bah, c'est un déclipsage.
Donc, c'est comme. Attendez, j'ai perdu le mot, car j'ai 40 ans. tu sais, quand tu fais de la lumière avec les petits trous sur ton vélo,
une dynamo.
Ouais, c'est comme une dynamo.
C'est un peu
tu la déclipses et hop, ça touche plus ta roue.
Même pas, parce que le principe du moteur Fazua, c'est que lui, il t'emmène aussi, il t'aide à arriver à 25. Par contre, comme il est absolument sans aucune friction, bah, si toi, tu roules à 35, t'as pas l'impression de tirer un âne mort avec un moteur qui, lui, se dit je bloque. Tu vois.
Et donc, comment il s'appelle celui-là?
Alors, le moteur, c'est Fazua. Moi, la marque que j'ai acheté, c'est Canyon, qui est donc une marque allemande. Donc, c'est un moteur allemand dans un vélo allemand. Donc, en fait, tout est allemand dans ce bordel. C'est le Canyon Endurace. Les cadres Endurace sont normalement les cadres route de Canyon pour faire du vélo, des sorties sportives un peu
Mais
confortable. C'est fait pour faire vraiment des
longues distances. Pour pas te matraquer, ouais, voilà. C'est très bien.
Et en fait, la gamme On chez Canyon, c'est toute la gamme électrifiée. Donc, le Endurace On, c'est des vélos de route avec ce moteur-là qui fait que tu peux soit le retirer et du coup ton vélo fait 12 kilos et c'est un vélo très sympa pour rouler.
Ce qui était l'équivalent de ton Triban.
Ouais.
Bah, alors moi je pensais, mais pas du tout en fait. C'est pas compliqué,
à retirer.
Ah mais pas du tout.
Ah,
il y a
oui.
une clé, un clip.
Ok.
Et ils t'ont même vendu parce que du coup dans le tube, en fait le moteur plus la batterie occupe une partie du tube. Quand tu l'enlèves, tu peux soit rouler sans rien. Et du coup, t'as un tube qui est un peu creux, mais tu peux aussi, t'as un cache qui est vendu, qui reprend la même forme, et qui peut même te servir de sacoche.
Oui, j'allais dire, tu peux cacher des choses dedans.
Moi, c'est ça le truc que je trouve le mieux dans ton vélo, c'est que non seulement c'est un peu le meilleur des deux mondes, alors sauf la pénalité de poids, mais finalement, un vélo à 12 kilos, t'avais le Triban, c'était carrément honnête.
Ouais.
Et vu la Rolls que c'est sur le salon, c'est un salon qui roule, c'est tout à fait ok. Mais en général, les intégrations de moteurs électriques, alors ça va mieux, mais en général, c'est un peu des afterthoughts, tu vois, genre c'est pensé après coup. Là, ton machin, c'est quand même vachement bien foutu, y compris le fait de pouvoir mettre du stuff dedans, dans le tube, parce que ça, à la fois, ça protège l'endroit où se plug le moteur, donc t'as pas de projection de trucs dedans qui l'abîme. Et en plus, il y a un côté cargo, parce que maintenant, tout le monde a des sacoches sur son vélo, là, t'as même pas besoin de sacoche.
Tu peux transporter
c'est
des trucs dans le tube. Dans le tube en alu qui est creux.
Trop pratique. Peut-être pas tes courses, quoi.
Non, pas tes courses.
C'est
mais tu vois, si pour mettre ton kit de réparation, ton compresseur, ton téléphone, tu peux, en fait. Et en fait, effectivement, donc, à l'usage, là, j'en suis à 500 bornes. Et très sincèrement, je comprends pas que ce truc-là soit pas généralisé parce que c'est génial.
En fait. Non, mais même parce que tu fais quand même des distances qui sont. C'est pas des petites distances. Les gens disent ouais, c'est machin. Toi, tu fais 4, 5, 6, 7, 8 bornes des fois pour aller te rendre dans tes rendez-vous.
Moi, de toute façon, c'est simple, c'est minimum 10 bornes.
Pourquoi c'est pas généralisé ? Moi, je sais pourquoi. C'est parce que je pense que quand tu goûtes à l'électrique, t'as pas du tout envie d'avoir la possibilité de faire du musculaire.
Ouais, mais en fait,
je pense que c'est tellement.
Encore une fois, l'électrique pure, c'est-à-dire les trucs qui ressemblent plus à des cyclos qu'à des vélos,
ouais.
Faut les traîner. Hein. Mmh. Un cow-boy, ça fait 19 kilos.
Oui, mais il faut les traîner, 19, non, puisque t'es toujours en électrique.
Bah, jusqu'à ce que ton électrique t'abandonne en bas du Père Lachaise, pour oui. Citer quelqu'un que tu connais. Et là,
bisous,
faut,
ouais.
faut te le fader, ton ventre.
Oui, mais c'est, voilà, c'est un trajet où tu pousses un peu. Et
oui, mais
voilà.
Tu vois, moi, mon vélo, le jour où le moteur dead, déjà, premièrement, il est remplaçable, puisque ouais. C'est littéralement puisque, un ouais, module que tu retires et que tu peux changer.
Ouais. Non, mais j'entends bien. Mais sauf que là, tu ne peux pas baser toute la consommation des gens en disant si jamais un jour ça tombe en panne, c'est quand même pratique.
Non, non, en fait, si. Parce que, alors, ce sera mon point, puisque c'est mon principal grief avec les VanMoof. C'est que les VanMoof, ce sont des pièces qui sont propriétaires.
Ouais.
Du Shimano, comme il y a sur mon vélo, machin, dans 10, 15, 20 ans, t'en trouveras encore. Et tu trouveras des pièces qui sont compatibles, parce que c'est un peu eux qui dressent le standard de le truc. Le problème avec les vélos électriques et
type Cowboy, Angel,
type
etc.
Cowboy. Ouais. Et encore Cowboy, c'est assez simple dans l'utilisation, mais le Angel, c'est le pire exemple oui. De tous.
D'ailleurs, il s'est fait matraquer la gueule. Hein,
parce que l'interface est à chier, toute la partie logicielle, c'est très très pénible à utiliser. Et ce truc-là, il est, enfin, t'arrêtes les mises à jour et ça devient vite un truc en pas fait, utilisable.
Mais oui, mais là, vous parlez de vélos électriques très particuliers. Le vélo électrique de base Décathlon.
Il n'est pas connecté.
Il n'est pas
voilà.
Connecté. Et
donc,
c'est la meilleure solution.
Et ben donc,
voilà.
C'est comme
c'est
pour ça
le...
que quand tu dis je ne comprends pas que toi, ton téléphone, je veux dire, ton vélo soit pas plus développé, parce que je pense que c'est deux publics différents.
Non,
toi, t'es juste une sorte de chose au
je
milieu.
Je parle pas de mon vélo en particulier, c'est-à-dire que
non,
mon vélo coûte 3000 euros. Et
clipsable, déclipsable.
Par contre,
quoi.
Ce système-là, effectivement, je trouve personnellement que c'est le meilleur des deux mondes. Et par exemple, Decathlon...
Mais
qui
pour ton utilisation qui est très particulière.
Ouais, mais en fait, Decathlon qui est quand même une marque qui prône le fitness à fond la forme. Un vélo électrique en fait, où... moi mon vélo c'est pas une mobylette, c'est à dire qu'il faut pédaler pour avancer, par contre quand tu pédales sur mon vélo c'est comme si t'avais un mec qui poussait dans ton dos en courant tout le temps, donc c'est génial parce que tu fais quand même un petit effort, c'est à dire que t'as vraiment l'impression de faire du vélo. Mais en même temps, t'es à 25 km/h en 3 secondes.
Ça, après, avec un bon vélo électrique classique, c'est la même chose.
Mais oui.
Je sais pas.
Si.
Bah,
je sais pas.
Moi, j'ai testé.
Parce que
j'ai
tu vois, il y a les
mais
moteurs Bosch
tous les
qui
lives
sont dans
la rue et tout, là.
C'est trop bien, les moteurs Bosch.
Sauf que ils t'emmènent à 25.
Non, après, ça va. Franchement, la friction n'est pas.
Parce qu'il y a quand même de la friction sur les moteurs Bosch.
Mais déjà. À quel moment en ville tu vas souvent au-delà de 25?
Bah, tout le temps.
Bah oui, mais je veux dire, encore une fois, tu réfléchis avec un profil très particulier.
Oui, moi c'est un vélo de route, donc c'est fait
donc
pour
voilà,
allumer.
Mais,
c'est fait pour allumer. Ouais. Mais tu regardes, je prends l'exemple de mon daron qui habite en Italie, dans un tout petit village en haut d'une colline. Il a 15 bornes pour aller bosser. Donc lui, il démarre en haut, il descend à son agence d'archi et il remonte le soir. Il a... quasiment 300 de D+, donc 300 mètres de dénivelé à monter, c'est pas une mince affaire.
Ouais.
Il a plus de 60 ans, il a quelques petits problèmes cardiaques, il s'est acheté un Farad Manufacture, machin, truc allemand, des vélos, la Daroni XXL, avec un moteur Bosch, je sais plus combien de Newton mètres, machin et tout, c'est merveilleux son truc. Tu te mets en mode turbo, tu es dans une pente à 10%, t'appuies à peine sur les pédales, le truc il tient 25 km/h.
Bah, lui, moi j'appelle une mobylette, c'est pas un vélo.
Non mais lui, le truc c'est que son use case à lui,
ouais.
Donc son usage, c'est je suis quelqu'un qui a pas
j'ai
trop
60
un profil
ans
sportif.
Et je dois monter une colline.
Okay. Je dois monter une
oui,
colline.
Mais, alors, pardon, je dois être complètement à côté, mais je vois pas la différence avec un vélo électrique qui peut-être sera un peu plus poussif et t'ira pas à 25 dans ta côte. Oh bah, et alors?
Eh ben, parce
on,
que
a,
non,
on est,
parce
on est fait, tranquille
non,
en fait,
parce que, en fait les vélos...
tu prends un Véligo, tu prends même les Vélib électriques,
bah, y a des vélos...
oui c'est peut-être pas ah oui t'atteins pas 40 km/h, mais
moi, je sais que
je veux dire, c'est
pente,
l'assistance est très
pente,
cool et voilà, quoi.
Une pente énervée avec mon vélo, je pense qu'il faut que je me mette en danseuse quand même un minimum,
mais
tu
bien
vois,
sûr que non
ouais. Ah si.
Mais vous avez jamais pris d'autres vélos électriques?
Non,
regarde,
non, je parle avec le mien.
Oui, non, mais du coup
je te dis.
Non, mais quand justement, tu vois là, par exemple, tous les vélos électriques. Moi, j'ai essayé le VanMoof sur une montée parisienne très forte, qui est celle du Père Lachaise.
Ouais.
Bah, tu pousses pas du tout, en fait. Oui, par contre, tu vas pas très vite, par contre, tu vas peut-être pas atteindre les 25 km/h, tu t'en fiches.
C'est ça,
Mais voilà, c'est ce qu'on demande en fait, parce que c'est quoi la population des gens qui font de l'électrique?
Bah,
c'est pas vous.
C'est ça la question.
Population
bah,
des
la
gens qui font de l'électrique,
aussi,
c'est
Daz.
C'est des... Mais non, la population principale qui est visée, c'est des gens qui veulent aller au travail sans suer, c'est des personnes âgées,
oui, en fait,
c'est des gens...
Tu vois,
et donc, du coup, elles ne demandent pas des choses comme ça.
On est par des mecs qui pédalent même plus. C'est pour ça que moi, je dis ça, c'est des solex.
Mais c'est pas la... Pour moi, c'est...
Tu vois, les livreurs avec les vélos, avec les grosses roues, celui que l'âme avait acheté d'ailleurs.
Mais pour moi, ça, c'est pas la plupart des vélos électriques. Ouais, la plupart des vélos électriques,
en fait,
c'est les Vélib, c'est les Lime, c'est les. Voilà. Et
ouais.
Ça, les speedbikes, on est d'accord que c'est de la merde.
Ouais,
okay,
ok. Non, en tout cas, moi, je suis vraiment ravi par ce vélo. Je sais que cette motorisation-là, ils la font chez d'autres marques. Il y en a chez Trek, notamment. En fait, le truc, c'est que quand tu compares les prix, tu te dis, bon, ok.
Tu l'as payé combien, rappel?
2999
moins les 500
balles, donc 2500 balles avec la subvention, qui est le prix en fait d'un cowboy.
Oui.
En fait,
le prix d'un petit scooter en gros que
mais
tu aurais
qui
utilisé,
est pas le prix de si tu avais deux vélos. En fait, t'as fait quasi une économie de si t'avais un électrique ou un musculaire.
Okay. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai vu que le cowboy coûtait 2500 balles et que j'avais déjà un vélo à 650 € et que j'ai vu que celui-là coûtait finalement 3000 balles moins 500, donc 2500 balles et que
t'avais les deux en un.
Je me suis dit, c'est pas si cher. Et le problème, c'est que j'ai vu le même moteur chez Trek, par exemple. Comme ils l'ont foutu sur un vélo full carbone, le bordel, il est à 8000 €.
Oui, non, mais Trek, il se touche un peu sur les prix aussi.
Ouais, Cannondale, c'est pareil. En fait, bizarrement, Canyon, c'était le moins rush. Donc j'ai dit, ok, let's go.
Non, en vrai, là où je me projette et où je me dis, dans une société plus économe et plus sobre, avoir un vélo qui fait les deux.
Oui, en vrai, c'est là.
Ça a plusieurs avantages. C'est que déjà, un, ça fait un bon vélo musculaire et un bon vélo électrique.
Ouais.
Deux, moi, je sais que dans mon appart, là, ça commence à être compliqué de stocker des vélos. Je vais sûrement en acheter.
Oui, mais encore une fois, les gars, vous êtes une niche. C'est-à-dire
que la plupart
des gens n'ont pas plusieurs vélos parce que d'une, t'as pas la place, de deux, t'as pas le budget. Moi, j'ai pas plusieurs vélos.
Mais donc, du coup,
mon vélo, je l'ai acheté 100 balles il y a 6 ans.
Du coup, là, un seul
vélo.
Oui,
mais tu vois, je veux dire, même en réfléchissant. En fait, moi, c'est marrant. Pardon, ne le prends pas mal, mais ça me fait penser au shampoing 12 en 1.
Oui,
et souvent c'est pour les mecs.
Il fait tout.
Alors ça fait tout en même temps. Ouais. Et t'es là. Ah oui, mais peut-être que
moi, je me
tu
méfie,
choisis. Mais
je suis un techos, donc je me méfie comme de la peste des trucs qui font plusieurs trucs mal.
Je suis d'accord.
Et au lieu de faire chacun un truc.
Mais c'est pour
mais
ça que je
convaincu.
Posais.
C'est
mais
pour
là,
ça
pour
que...
le coup,
c'est que ça marche bien.
En fait,
c'est que ça marche vraiment.
Et c'est pour ça que je posais la question de un vélo électrique lambda, peut-être pas les cowboys, peut-être pas les Evanmoof et tout, un vélo électrique Décathlon. Si jamais la partie électrique tombe en panne, on peut quand même faire du vélo avec.
Oui,
c'est juste qu'il faut pousser un petit peu plus.
Ouais,
et en fait, il faut pousser un petit peu plus. Mais sauf que moi, mon vélo que des années 70, il est lourd de base. Donc du coup, naturellement, tu peux survivre avec un vélo un peu lourd.
Ils sont quand même très très lourds.
Combien
les vélos électriques des 4
T'enlèves la batterie, je pense que
je
ça fait 13 kilos.
C'est des cadres plus chers.
Non, mais par exemple, les cowboys et compagnie, si t'enlèves la batterie, on avait vu que c'était 12-13 kilos.
Non,
c'est
19 kilos.
C'est plus
15-16. Je crois que c'était le cowboy dont elle vous avait parlé.
Le cowboy, il fait 2,5 kg, mais le vélo tout compris, il fait 19 kilos.
Non, je suis pas sûr que. Et bah oui, justement, quand t'enlevais la batterie.
Bah ça fait 17. Mais entre 17 et 12, c'est pas la même chose.
Non, mais en fait, le problème, c'est pas tant le poids du vélo, c'est que t'as 17 kilos
plus le
moteur,
le
ils ont de la friction.
Bah oui,
absolument tous les systèmes électriques
ont
de la friction.
Et je te rappelle en
ça
plus
peut
que...
être comme un petit dynamo, je fais clip.
Non, je te rappelle en plus que non, parce que le moteur est dans le moyeu, donc tu peux pas l'esquiver.
Okay.
Et en plus, le cowboy, le truc à pas oublier, et comme le Vanmoof, c'est des vélos avec une courroie, c'est à dire qu'il y a zéro développement,
il y a qu'une seule vitesse,
il y a pas de vitesse. C'est-à-dire que
moi, j'ai
cowboy,
pas de vitesse non plus, donc.
Ton cowboy qui fait 19 kilos, faut l'emmener dans un truc sans vitesse avec le moteur qui fait de la frame moteur, tu vois.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en cas de problème, effectivement, t'as peut-être un trajet très chiant, et puis après,
que tu vois, j'aime bien la gueule qu'ont les cowboys. Je trouve que ce sont des beaux vélos. J'aime beaucoup le design des Vanmoof. C'est vraiment des beaux objets. En fait, par contre, le problème que moi j'ai, notamment avec le cowboy, par exemple, c'est que. Il faut avoir ton téléphone pour déverrouiller le vélo.
Alors que tu vois, moi,
c'est
le troisième avantage que tu as de ton vélo. Je sais pas quels sont les deux premiers, mais je brode. Allons-y. Non, c'est un des avantages de plus avec ton vélo, c'est que ton vélo, contrairement à tous les trucs gadgets technologiques, c'est que tu as un bouton et ça marche.
Ouais.
Tu vois, et c'est l'anti mur de télé Apple, tu vois, sur
alors,
le véhicule. C'est-à-dire que c'est un truc
à noter
en gros,
quand même que le vélo, il est connecté en Bluetooth.
Ouais. Si tu veux,
si
mais tu
veux.
Peux l'utiliser sans téléphone.
J'appuie sur un bouton, le vélo est allumé, je change les modes avec un pouce et c'est terminé. Si je veux plugger mon téléphone et le faire communiquer avec le vélo et avoir la cadence des tours minutes que je fais, les watts que je balance, machin, etc. Je les ai. J'ai la métrique en temps réel.
Mais attendez.
Oui.
Le Van Move, t'as pas besoin du téléphone? Parce que moi, je l'ai utilisé, celui de mon mec, donc j'avais pas son téléphone.
Ça va, il est
le Van Move,
il est à mi-chemin, je crois. Comment tu le déverrouilles?
Tu le déverrouilles en faisant des petits clics-clics-clics sur le machin. Putain, j'ai vraiment un vocabulaire extraordinaire ce soir.
T'inquiète, on est
tous
français.
Tu rentres ton code...
Ah, il y a le petit écran, là.
Ouais.
Ouais, ok.
Mais t'as quand même des mises à jour par ton téléphone.
Oui,
t'as
bien
des
sûr.
Trucs
oui, oui.
Tu peux
mais je pense que c'est comme. Après, dans c'est le... comme quand tu fais jamais tes mises à jour sur ton ordinateur, oui. Ça continue de marcher en fait. Hein.
Oui.
Après, moi, le moteur Fazua, quand tu l'enlèves, tu prends le drive pack, il y a un truc USB qui est caché derrière deux vis. Quand tu le plugs à ton ordinateur, t'as l'impression d'être Neo dans la matrice. Attention, hein, parce que là, t'as tous les trucs. En fait, tu peux changer le profil. Ça, c'est intéressant aussi d'avoir. Des profils, par exemple, là, moi je suis en profil urbain. Le profil urbain, le vélo te dit je t'envoie toute la patate au démarrage pour que tu t'arraches d'un feu rouge et après j'adapte le truc. Ouais. T'as des profils sortie route, t'as des profils balade en forêt.
Ça, franchement, tu vois, c'est le truc le plus agréable quand t'as beaucoup de poussées au départ et ça diminue progressivement parce que les vélos qui balancent toute la patate
en quand linéaire.
Quand t'arrives à 25 km/h, t'as l'impression de prendre un mur. Hein.
Ouais, alors, bah, c'est ça. C'est ça, c'est que tu sens... Là, en fait, il y a beaucoup de vélos, et le Cowboy, c'est ça. Quand t'arrives à 25, tu sens que le moteur, il fait « J'arrête !»
Ouais.
Et
là,
démerde-toi.
Et là, c'est bisous. Hein.
Bah, et
alors
là,
que l'autre, il va te dire « Attends, t'es en train de donner tant de watts avec tes jambes, je te fais un petit filet d'électrique
juste
pour t'amener tranquillement. »
Oui, mais comme je te disais, en fait, c'est quand même très très rare les occasions où vous allez à plus de 25 km/h, les
mais
gars.
Mais non, en fait, justement, mon
vélo. Et dans ce cas-là,
vélo,
vous êtes des dangers pour moi sur les pistes cyclables.
Mais non, parce que moi, je roule sur la route.
Ah bah voilà.
Oui.
Mais sauf qu'il y a plein de gens qui vont à plus de 25
km/h
sur les pistes cyclables.
Déjà
25
km/h en stabilisé dans les pistes cyclables à Paris, notamment celles du boulevard Richard Lenoir pour venir ici là, c'est-à-dire celles qui sont entre le trottoir et les bagnoles,
tu peux pas trop doubler,
c'est la merde.
Ouais,
autant rouler sur la route, moi c'est ce que je fais.
Tu te sens un peu Charles Leclerc à Monaco quand même.
Bah ouais,
c'est entre deux rails à 300
km/h. C'est super chiant, c'est super chiant. Mais moi en fait, je l'ai pris précisément parce que je ne voulais pas avoir ce mur à 25 et me dire il m'amène à 25, je suis super content. Si j'ai envie de rouler à 35, c'est moi et mes jambes.
Oui, mais voilà, tu veux le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière.
Et ça existe, c'est ça, c'est un formidable message d'espoir.
C'est vrai.
Il est possible d'avoir le beurre,
et c'est futur
l'argent
et
du beurre,
futur ouf,
le cul de la crémière et tout ce qui va avec. Ça existe, c'est disponible, ça s'appelle Fazua et c'est chez tous les constructeurs, donc... Cherchez sur internet et vous allez voir, je vous garantis, si vous aimez
et
les vélos.
Vous économisez de l'argent parce que c'est deux vélos en un.
C'est vrai.
On économise de l'argent, donc on gagne de l'argent, comme dirait Trunks. Et voilà qui conclut
cette émission.
Non,
si, je sais pas.
T'as pas encore un truc à claquer?
Non, moi je voulais juste vous poser une question techno vélo.
Attention, petite. Voilà. Je sais pas à quoi ça correspond. Je sais pas à quoi ça correspond.
14e jingle, 25e voilà. News, c'est parti.
Non, parce qu'encore une fois, j'ai cherché des trucs de tech vélo.
Ouais.
Et je me suis dit, nous, on fait du vélo tous les trois.
Oui.
Et parce que moi, sur Twitter, je suis énormément de cyclistes qui postent les vidéos de leur trajet.
Ah oui.
Ah,
et j'étais assez intéressée de savoir ce que vous en pensiez. Si ça servait à quelque chose selon vous, si ça garantissait la sécurité du vélo ou pas.
C'est
si
comme les dashcams.
Ouais, d'ailleurs, j'ai vérifié, c'est tout à fait légal. J'avais un doute.
Légal, mais c'est pas c'est difficilement opposable. N'empêche que si t'as un constat et que tu montes ça à la police, les gens ils vont faire bon, d'accord.
Ouais.
Ouais.
Moi j'ai un truc que j'ai suivi en suivant que j'ai découvert en suivant le YouTube game vélo anglophone et d'Angleterre. C'est que en Angleterre, j'ai découvert que la police avait mis en place une plateforme où tu pouvais dénoncer les incivilités et les infractions
mon
du
rêve.
Code de la route.
La délation et la France, c'est quand même
c'est pas de la délation.
Je pense. Mais là,
c'est
un
de
peu
la dénonciation,
quoi.
Pardon.
Exactement.
C'est de la dénonciation. Là, en gros,
c'est un peu pareil.
T'as un truc où, si t'as une dashcam ou une caméra sur ton vélo et que t'as un mec qui te fait une dinguerie sur ton vélo,
tu
l'uploades sur une plateforme et genre, t'as même pas besoin de porter plainte, la police s'en occupe.
En France, ça existe, ça s'appelle Twitter.
Non. Oui, bah,
ouais. Tu l'uploades sur Twitter, tout le monde te trouve le gars en 3 secondes.
Non, mais sauf que ce truc-là, c'est un peu pervers. En France, il y a plein de mecs qui. Enfin, de mecs et de femmes qui postent sur Twitter leur truc et qui racontent que quand ils ont été voir la police leur dit bon, on prend pas de plainte et fois que ça fait mille RT et que tout le monde a tagué la préfecture de police, les mecs reviennent en disant
ok,
on
va
prendre votre plainte, machin.
Bah, bien sûr.
Ce qui est un peu chiant,
mais c'est les débuts,
nous.
C'est comme ça qu'il faut que ça avance pour que ça devienne une base.
Et ça me fait penser au fait que Garmin, qui est la marque de GPS et de montre que j'utilise, qui est pas sans défaut, ils ont sorti une version de leur radar derrière le,
oui, je l'ai
le
vu.
Truc, des... avec caméra ouais. intégrée. Donc pour la modique somme de 400 euros, vous pouvez avoir un feu arrière qui vous indique quand les voitures arrivent derrière ouais, vous.
C'est
et
un peu de la couillasse.
C'est, aussi, c'est un peu de la couillasse.
Il y a une, oui. un équivalent qui existe sur Insta parce que je me demande, je les pub tous les 12 ouais. jours. Donc sur effectivement un truc en gros qui les gars t'expliquent que c'est des anciennes chez Tesla qui ont fondé ce truc là. Donc voilà, évidemment, ça, déjà, storytelling, voilà. Mmh. Mais donc, effectivement, tu mets le truc à l'arrière et ça te prévient avec un code couleur de la proximité des voitures et de la position des voitures.
Bah là, enfin, ça, tu tournes la tête.
Là, l'avantage. Non, non, ouais, mais, non, mais là, fait, ça détecte, genre, quand t'es en route de campagne et que t'as une voiture
ah, oui,
qui déboule à 500 mètres, ouais, ouais. il te promonte sur ton. Il dit, attention, il y a une voiture qui arrive, il bip et surtout, il adapte la lumière.
Ah, mais attendez, genre, c'est génial.
C'est vraiment cool. Ils ont fait une version de ce truc-là avec une caméra en plus. Et tu peux lui dire, bah, si j'appuie sur un bouton de mon GPS ou si tu détectes que je tombe, t'enregistres le snapshot des deux ou trois dernières minutes derrière toi et en fait, tu peux récupérer la plaque d'immatriculation. Et
moi, j'aime bien.
C'est pas mal. Mais moi, ça coûte 400 balles.
Non, mais ça, et moi, ce truc-là, en fait, je trouve ça cool dans l'idée, sauf qu'en France, déjà, personne fait rien quand il y a des gens qui font des dingueries.
Ouais.
Alors qu'en Angleterre, t'as des mecs qui ont des chaînes YouTube spécialisées où ils se baladent dans Londres et ils filment les gens et ils se mettent à des intersections un peu sketchy et tout et ils dénoncent les gens. Et en fait, au fur et à mesure, t'as un...
On pourrait tellement pas faire ça en France.
Non, mais t'as un truc de contrôle social en fait. T'as un check permanent.
Contrôle citoyen.
Ouais. Et moi, je pense qu'on devrait faire ça, mais avec des guns.
Non mais genre, en fait background check si tu veux mais genre
en fait
moi,
c'est bien
moi,
que
devrait y avoir autorisation de tirer sur toutes les personnes qui vous invite
à aller chercher la vidéo du cycliste italien qui tire des fusées de feux d'artifice sur les gens
les scooters. Ça c'est incroyable.
Le
mec il a des tubes avec les feux d'artifice dans son vélo,
il transforme son vélo en lance-roquette.
Moi j'aimerais
incroyable.
Bien avoir ça va pas aller ce soir, je vais m'arrêter, continuer sans moi. Les trucs là qui tirent. tu sais, les trucs où tu peux aussi foutre des coups de couteau pendant la guerre là.
Ah, les baïonnettes.
Une baïonnette. Ah. J'aimerais installer ça sur mon vélo.
Ouais, bah oui, comme ça tu planterais les autobus.
Tu plantes les piétons sur les trottoirs quand ils marchent sur la piste cyclable.
Je rappelle que nous devons tous partager le domaine public. Par contre. Le fait que tu parles de technologie vélo, donc là, il y avait la dashcam, il y avait le radar de recul,
ouais,
là.
Que j'aime beaucoup.
J'aimerais évoquer avec vous un sujet qui est celui des bike computers, parce que j'ai l'impression que quand t'es un peu un cycliste régulier, c'est très intéressant d'avoir ce genre d'appareil.
Oui.
Mais j'ai quand même l'impression que c'est des appareils qui te donnent justement l'impression d'avoir un Nokia des années 70 sur
oui.
ton téléphone.
Oui.
Aucune idée de ce.
Alors, je vais te faire un petit laïus voilà. parce que je suis.
C'est des ordinateurs de vélo.
En fait, t'as toute une gamme de vélos, ce qu'on appelle les bike computers, qui sont en gros
des compteurs évolués.
C'est un compteur de vitesse, mais qui te donne toute une farandole d'informations. Donc, par exemple, moi, j'ai ma montre qui me donne la puissance que j'ai avec le capteur, qui me donne tout un tas de métriques sur mon vélo. À chaque fin de sortie, il me fait un récapitulatif de ce que j'ai fait. Il me dit, voilà, est-ce que t'as progressé ? Est-ce que t'as pas progressé ? Sauf que, par exemple, donc moi, je suis équipé de la marque Garmin, qui, rappelons-le, leur cœur de métier, c'est de faire des GPS, et des GPS y compris pour l'aviation,
avion,
qui sont extrêmement performants, confirmes, Quentin.
Ah oui, le G1000, le G3000, bien sûr.
Voilà, donc t'as des trucs qui te vendent ça, mais vraiment, c'est extrêmement cher, c'est-à-dire que le dernier modèle qu'ils ont annoncé, c'est 750 €. Je rappelle que pour 750 €, on a un iPhone
vélo. Quand
même.
Ouais, mais t'as plus qu'un vélo même.
Non, mais t'as, en termes de technologie comparable, t'as un iPhone avec une puissance de calcul.
Ouais.
Là, pour 750 €, t'as un truc qui te donne tes métriques avec un écran tactile qui est quand même pas fou, qui lag un peu. Et surtout, moi, le principal grief que j'ai avec Garmin, c'est que tu veux te déplacer avec. Tu te dis, bah, comme Google Maps, je mets une adresse et tu m'emmènes.
Non.
Non, non, non,
il faut charger
faut que tu charges le truc.
Mais du coup, quel est l'intérêt par rapport à avoir ton téléphone et ta montre connectée ?
T'as plus de batterie. Et t'as accès à tout un tas de compteurs.
C'est pour ça que
t'as la taxe vélo en fait. C'est le double du prix que ça devrait
coûter. Moi, à l'issue de la conférence Apple, j'appelais de mes voeux, Apple, si tu m'écoutes,
à faire un bike computer.
Tu as fait CarPlay, pourquoi ne pas faire bike play ? C'est-à-dire un bordel où tu mets ton téléphone sur un support sur ton vélo et d'un seul coup, il te met toutes les informations liées à ton vélo et ça.
Mais pardon, peut-être que je suis boumeuse ou juste à quoi ça sert ?
Alors, pour plein de
Alors, quand
enfin, je veux dire, les gars, vous avez pas d'autre chose dans votre vie à savoir prendre tour vélo.
Franchement, quand tu fais du vélo un peu sportivement et tout, c'est vraiment chouette. Alors, sachant que moi, j'ai pas la Garmin, mais il y a plein d'autres.
Et t'as pas des petits trucs que tu peux, qui sont pas des téléphones, aussi, mais des petits trucs.
Il y a Wahoo, Hammerhead. Hammerhead, c'est ceux qui ont fait le Karoo, qui.
Eux, je les vois sur Instagram, je me dis, est-ce que
c'est très très bien. C'est très très bien.
Mais attendez, pardon.
Ils ont fait un truc, attends, juste sous base Android, qui marche très très bien, avec que des trucs sur OpenStreetMap. Le seul défaut, c'est que c'est un peu moins de batterie, mais ça marche très bien.
Mais ok, les petites Fitbit là, toutes simples.
Oui.
Ça tient de la batterie, ça te donne trois trucs. Pourquoi tu peux pas mettre une Fitbit sur ton vélo?
Tu peux.
Ça coûte 70 balles et voilà.
En fait, l'intérêt, par exemple, que tu
j'ai
as
la
avec,
solution,
avec
de
des vélos,
la question.
Avec des vélos qui sont un peu connectés, c'est que tu as aussi des capteurs au niveau du pédalier pour le nombre de tours que tu fais.
Bah, mais... comptez dans votre tête.
Oui, bah oui.
Non, mais en vrai,
ça vous fera bosser.
En vrai, si tu veux vraiment avoir de l'entraînement sportif et avoir juste plus que le faire au feeling, c'est assez pratique.
Pourquoi tu peux pas mettre un truc comme une dynamo qui rechargerait ton téléphone en même temps, comme tu branches. Et ben donc voilà, il y a pas de problème de batterie.
Si, mais ça taxe parce que c'est.
Et ben tu pédales plus fort.
Oui, mais en fait, lui, il est vraiment sur les watts, tu vois.
Mais le truc, c'est que t'as raison. Je sais que t'as raison, mais moi, je suis un cycliste, je suis matrixé.
Non, mais tu vois,
je mets des milliers d'euros
mais
sur
mais
un truc.
Non, mais c'est surtout que les gars, donnez vos sous à des gens qui en ont besoin.
Non, mais
pas de dépenser des choses.
Je ramène le bon sens paysan, c'est que moi, je suis ce que je considère comme.
C'est moi le bon sens paysan, là,
oui,
s'il te plaît.
Oui, mais le bon sens paysan, mais pas du Creusot. c'est moi, c'est-à-dire que je ne m'habille pas en full lycra, mon vélo n'est pas en full carbone, et pourtant. J'aime bien avoir un truc tout
mais
court.
T'es exactement comme les deux, t'as besoin d'un vélo électrique et d'un vélo musculaire.
Oui, mais
t'as
en fait,
besoin d'avoir tes données sans
moi,
être
j'aime bien,
en cycliste.
J'aime bien par exemple juste à mon niveau à moi, c'est-à-dire
t'es au milieu, t'es Bayrou du vélo.
Voilà, j'envisage pas de faire des perfs de ouf, mais juste déjà avoir ta progression sur une année, c'est super cool.
Et ben donc Strava ou
si
n'importe quoi d'autre.
Mais oui, mais en fait Strava, il est alimenté par les données que ton vélo fournit.
C'est ça.
Moi si tu vas sur mon compte Strava, tu vas voir les watts au niveau du pédalier et la cadence.
On est en train de perdre Quentin.
La cadence moyenne, c'est parce que mon vélo la donne. Sinon, Strava, c'est juste un truc qui va te dire t'as fait 10 km en une heure et donc tu fais du 10 km heure.
Ouais.
C'est chouette. Moi, je préfère qu'ils me disent t'as fait 10 km en une heure, tu fais du 10 km heure. Ton rythme cardiaque, c'était tant. Ta cadence, c'est bien. C'est moins bien que la fois d'avant, mais c'est mieux que la fois encore d'avant.
Putain, mais les gars, niquez un peu.
Voilà,
et mieux, quoi. C'est pas possible.
Alors, l'un n'empêche pas l'autre.
C'est comme si tu me disais quand je nique, j'ai besoin de savoir mon rythme cardiaque.
Mais non.
C'est comme si tu disais. Moi, en fait, j'aime bien par exemple.
Cette émission-là, vraiment, ça, on est le café du commerce sur 20. Franchement, je vais mettre un disclaimer
non,
en début.
En vrai, je respecte les pratiques de chacun et je suis intéressée de savoir que vous cherchez ce genre d'informations. C'est juste que j'essaie de comprendre. C'est un nouveau monde
non,
qui s'ouvre
fait,
à moi
en fait,
de
voilà.
vous entendre
non, non, non,
raconter
en fait,
ça.
En fait, imagine que moi, je suis comme toi. Je suis team bon sens.
Ouais.
Et j'arrive dans ce truc-là et je me dis, c'est des métriques que je trouve cool.
Ouais.
Je vais me renseigner pour avoir l'ordinateur qui permet de les avoir.
Ouais.
Et je vois des trucs que, en tant que technophile, je considère comme datant de 2001, qui coûtent le prix d'un téléphone de 2012.
Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça signifie que chez les gens qui font
du vélo, on est des pigeons ? Oui.
Non. Est-ce que par exemple, chez tous les gens qui designent des choses techno, ça veut dire qu'ils ne font pas de vélo ? Puisque a priori, ça n'a pas été développé intelligemment.
Ils font du vélo, mais ils marchent comme des gorées sur des trucs.
En termes du X, c'est pas ouf. Moi, je veux un truc qui ressemble à Waze. Imagine,
mais
pour
bien
moi,
sûr.
Le produit idéal, c'est un truc qui ressemble à Waze au niveau du look and feel ou à Google Maps, tout simplement, avec toutes les métriques de mon vélo.
Surtout qu'ils savent le faire, Garmin, ils savent le faire. Ils font des GPS pour voitures qui marchent super bien où tu cliques sur une destination et sur vélo, ils sont pas foutus.
Et là, le problème, c'est
bah
ça. Le problème, c'est que
dès que t'es
en vélo, t'as un truc forcément de 2001. Tu vois, c'est chiant. Voilà. Et ça coûte une couille. Donc là, moi, j'ai kickstarté un truc qui s'appelle Beeline Vélo 2. C'est un bike computer.
Point kickstarting.
Comme ça.
Ouais.
Et qui te permet, par exemple, plutôt que de faire de la navigation au tour par tour, là. En fait, le truc, il te donne ta destination globale avec une boussole. Tu dois aller à peu près par là.
Okay.
Et donc, c'est à toi de dire, tiens, j'ai envie de continuer tout droit ou de tourner à la troisième. En fait, je m'en fous. Tu vois, c'est un truc où tu te laisses guider et où
tu peux finir sur le périph.
Tu
sans
peux noter,
aucun problème.
Tu peux noter les routes en disant, celle-là, elle était cool pour les vélos, je mets un plus. Du coup, ça rentre sur leur réseau et ça dit, cette route-là, elle est validée, celle-là aussi, celle-là aussi. Et à la fin, il te fait des parcours qui ne sont que plus.
Alors, je pense que vous êtes addict à la tech.
C'est peut-être
pour ça que vous avez
besoin
du camp.
C'est que ça gâche le plaisir.
C'est que naturellement, vous avez un problème d'addiction.
Ça gâche le plaisir.
Moi, regarde, mon addiction, ça m'a permis de faire... je dois être à 3000 bornes de vélo alors que j'avais même pas prévu d'en faire.
Mais non, mais Daz, ce que tu me racontes là, en disant, ça t'emmène à peu près par là et tout. Mais moi, c'est ce que je fais tous les jours. Je n'ai pas de GPS sur mon vélo. Je suis là, attends, je sais à peu près que ça par là.
Après,
je me perds et après je me dis tiens, cette route elle était sympa, je me le note.
Et quand éventuellement après, je le madame, rentre sur les... Quand après madame, moi je rentre chez moi et je me dis putain j'aimerais bien savoir au total ça fait combien de kilomètres que je suis avec ce vélo. Et ben toi tu dis alors je sais pas trop, je vais dire
alors,
à peu près à la louche.
Déjà calme-toi très fort.
Alors que moi je regarde
commerce avec un cul.
Je regarde le profil de mon vélo et il me dit "Eh mec, t'as fait 896
km." Parce que moi je rentre chez moi, je suis là, et je m'en bats les couilles de savoir exactement de combien de kilomètres j'ai fait.
Mais oui, mais ça c'est le problème des gens madame, c'est que vous en battez trop les couilles de tout. La vie c'est la métrique.
En vrai, je t'envie parce que moi je suis névrosé des chiffres, je fais que ça être sur Strava.
Moi c'est pas une névrose mais j'aime bien être sur Strava.
OK.
Et comme mon vélo est à la fois connecté, mais quand je le mets en mode musculaire, du coup, il est plus du tout électronique, donc il n'y a plus aucun truc.
Ah, t'es tout perdu.
Eh ben là, j'utilise ma montre.
Mais c'est exactement la même chose que quand je vais à la piscine avec mon ami coach de piscine, qui lui a 1000 choses pour voir. Et moi, je compte mes longueurs pour savoir combien de kilomètres j'ai fait.
Mais t'as raison, t'as raison.
Et ça
raison,
va. Tu vois, je survis.
Le cerveau travaille. Quelle boumeuse.
Non,
mais tu sais quoi,
je suis
de l'autre côté de la barrière et j'ai des envies d'être libre
parce que
de ces chaînes.
Et c'est pour ça que j'aime tant le vélo musculaire, c'est que si un jour il y a une apocalypse et qu'il n'y a plus d'électricité, je continuerai à vivre bien, j'aurai un vélo et pas de Strava. Et toi, tu seras là, t'auras ton vélo musculaire, mais tu seras là, putain, je sais pas combien de kilomètres j'ai fait, je suis dans le mal.
Non, parce que là, le but, ça sera de réussir à passer
ton permis.
J'ai la synthèse des deux trucs, c'est que j'avais vu passer des types qui avaient fait un compteur de vitesse de vélo, mais analogique. Genre avec un truc
avec
dans
une aiguille,
et avec une aiguille.
Ah bah ça, c'est bien.
Et qui compte tes kilomètres.
Ouais,
mais
tu perds des watts.
Oui.
J'avais ça sur mon VTT quand j'avais 15 ans. C'était un bloc comme ça, avec un tube qui était relié à la roue, et ça tournait. C'était giga pas précis, et en plus, bah, du coup, tu sentais qu'il y avait un effort qui était perdu pour alimenter le truc qui fait tourner l'aiguille. Mais bon, en fait, en gros, faites ce que vous voulez, du moment où vous faites plaisir, voilà, il faut juger pas les autres.
Si vous avez beaucoup de sous, achetez plein de gadgets.
Et une Ferrari, du coup, vous pourrez en 2030.
Ou alors, donner à des gens, à moi.
Oui, par exemple.
Aux Ukrainiens.
Ou
non,
à moi.
Non, pas la peine.
Ou à toi pour acheter ton appart de tes rêves à Ivry.
Ah oui, c'est vrai qu'elle cherche. Voilà. Si vous avez 175 000 euros, contactez Chloé.
At super close sur Twitter.
J'accepte tous les dons.
Voilà.
Bourrez les dons.
Est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour
du sujet? Ouais,
on a fait
bah,
combien
écoute,
de temps là?
Une heure et demie.
Hein.
Une,
oh, c'est bien.
Une heure et demie sur des trucs zéro rédigés, franchement.
Bah oui, mais c'est ça la puissance du Daz. Hein,
mais insultez-nous en commentaire.
Mais non.
Oui, non, moi je pense que c'était des sujets qui amèneront les gens à discuter entre eux. Et on pourra débriefer au prochain camp. Voilà. je tenais donc évidemment à faire un petit coucou à Ken en espérant qu'il se remette rapidement. Je remercie évidemment Chloé et Victor d'avoir si bien pris la balle au bon et tricoté autour des sujets. Et c'était très sympa de discuter avec vous. Je remercie Quentin à la Réal, le light jockey, c'est Momo. Allez, on se tape sur les doigts, on lève les bras bien haut. Bref, on danse le Mia. Il dit quoi normalement Ken pour dire au revoir?
Il dit au revoir.
Et ben voilà.
Des bisous.
À la prochaine. Le mois prochain, j'ai décidé.
Ouais.